Nous sommes le mardi 4 octobre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, cacher cette Coupe du Monde que nous ne saurions voir après Marseille, Strasbourg et Bordeaux. C'est Paris qui dit non au Mondial Qatari. Pas d'écran géant pour la retransmission des matchs. Vous l'entendrez, les Parisiens sont assez partagés. Dans ce journal, tempête judiciaire autour de l'Elysée. Le secrétaire général est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Alexis Kohler conserve son poste malgré tout. Nous verrons ce que la justice lui reproche exactement. Et puis, Hollywood n'est plus ce qu'il était, l'épicentre du cinéma aujourd'hui, à traverser l'océan. C'est à Pékin que ça se passe maintenant. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur et c'est pour cela qu'on prend le temps de s'y arrêter ce matin. La Coupe du Monde de football débutera dans moins de 2 mois au Qatar, pays accusé de ne pas respecter les droits de l'homme et de se moquer de l'environnement avec ses stades climatisés. Plusieurs grandes villes françaises ont annoncé qu'elles ne diffuseraient aucun match. Après Lille, Strasbourg, Marseille et Bordeaux, Paris prend donc le train du boycott en marche. Ni écran géant, ni zone de rassemblement. Mesure radicale que justifie l'adjoint au transport de la ville, David Béliard.
C'est une aberration à la fois sociale. 6500 sont morts pendant les travaux. Et puis c'est une aberration climatique avec la climatisation des stades, avec des avions qui vont tous les jours amener les spectateurs et spectatrices. C'est un événement qui est destructeur. Et aujourd'hui, pour une ville comme Paris, qui est engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques, qui est engagée dans la lutte pour la justice sociale, eh bien ce n'est pas possible.
L'adjoint au transport de la ville de Paris, David Béliard.
Alors les esprits critiques diront que cela permettra aussi de faire des économies à bon compte, à peu de frais, pas d'écran géant, pas de fan zone ni de festivités. Ça fait donc moins d'électricité et de personnel de sécurité. Qu'en pensent les Parisiens maintenant ?
Eh bien écoutez, ils sont plutôt partagés, vous allez l'entendre. Même s'ils comprennent la décision de la mairie de Paris, certains se disent déçus. Chloé Lagadou et Louise Douillet sont allés tendre leur micro dans les rues de la capitale pour recueillir leur avis.
Bah, je trouve que c'est bien qu'ils le fassent. Je pensais la boycotter aussi. Je pense que cette Coupe du Monde, elle a aucun sens.
On pourrait peut-être croire que c'est juste une position politique, une position d'image, du greenwashing quelque part. Mais du coup, je pense que ça reste quand même une bonne chose. Donc tant mieux.
Je trouve ça très bien ce boycott et je comprends toujours pas comment on peut encore accepter que l'équipe de France aille là-bas.
C'est surtout hypocrite, je trouve. Maintenant qu'on envoie l'équipe de France, bah faut laisser les fans profiter. Ils ont le droit de regarder la compétition.
Bien sûr, on va aller dans des bars, des restaurants, regarder les matchs.
Un témoignage de quelques Parisiens recueillis par Chloé Lagadou et Louise Douillet.
Europe 1, 7h03, l'orage judiciaire gronde au-dessus de la Macronie. Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti sont rattrapés par la justice.
Deux hommes proches d'Emmanuel Macron, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est soupçonné de prise illégale d'intérêt en raison de ses liens familiaux avec l'armateur italo-suisse MSC. Sa démission n'est pas à l'ordre du jour malgré sa mise en examen. Que lui reproche la justice ? Explication Baptiste Morin.
La justice lui reproche d'avoir joué des coudes au sommet de l'État en faveur d'une grande entreprise qu'il connaît bien. Entre 2010 et 2012, Alexis Kohler était sous-directeur de l'Agence des participations de l'État. Durant ces années-là, il a approuvé des contrats signés entre le port du Havre, dont il était à ce titre membre du conseil de surveillance, et MSC, le croisiériste et deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs au monde. Or, il n'a jamais signalé ses liens familiaux avec le groupe italo-suisse. Gianluigi Aponte, fondateur et dirigeant de MSC, est un cousin de sa mère. Par la suite, Alexis Kohler a occupé des fonctions au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Lorsqu'il l'a quitté en 2016, il est devenu directeur financier de MSC. Il a alors participé à des réunions avec le ministère de l'Économie au sujet du rachat des chantiers de l'Atlantique, dont MSC est un client important. C'était quelques mois avant d'être nommé secrétaire général de l'Élysée.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Éric Dupond-Moretti, pour sa part, est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour conflit d'intérêts. Il conserve lui aussi son fauteuil de ministre de la justice.
Il est accusé d'avoir profité de son statut de ministre justement pour régler ses comptes avec les magistrats avec lesquels il était en conflit lorsqu'il était avocat. Ses conseils ont immédiatement formé un pourvoi en cassation, ce qui suspend son renvoi devant la CJR.
Alors à l'Assemblée nationale maintenant, comme prévu, les débats autour de la réforme de l'assurance chômage ont été particulièrement vifs hier soir.
Le texte est une fusée à deux étages. Il prévoit dans un premier temps de prolonger les règles d'indemnisation auxquelles devrait s'ajouter un décret modulant les droits en fonction de la situation économique. Ça n'a pas du tout plu à la NUPES et au Rassemblement national qui ont rejeté conjointement le projet du gouvernement. Reportage Alexis de la Fontaine.
Oui, à peine quelques minutes après l'ouverture de la séance, le député insoumis Adrien Clouet dépose une motion de rejet préalable à la réforme. Même si cette motion n'est pas adoptée grâce au soutien des Républicains à la majorité, la grosse surprise, c'est le vote commun entre l'ANUP et le Rassemblement National, une position défendue par le député du RN, Brian Masson.
On a estimé que cette motion de rejet allait dans le bon sens. Et d'ailleurs, on a toujours dit que nous voterons les motions de rejet qui iraient dans le bon sens. Le gouvernement veut passer en force absolument sur beaucoup de sujets. Donc il est temps aussi que les oppositions s'affirment et s'expriment au sein de l'Assemblée.
Énervés par cette motion, les sifflets de la Macronie résonnent rapidement aux quatre coins de l'hémicycle. De quoi énerver Mathilde Panot, présidente des Insoumis, qui s'est portée au secours de sa collègue Sandrine Rousseau.
Je note que lorsque des femmes parlent dans l'hémicycle, et de manière extrêmement sensible lorsque Madame Rousseau s'est exprimée dans l'hémicycle, il y a un brouhaha, notamment de la part de la majorité, et que ce sexisme n'est pas acceptable dans l'Assemblée nationale.
Enfin, les députés décident d'écourter la séance après minuit. On veut se préserver pour les prochains jours qui seront plus musclés, confie un député macroniste à la sortie.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et l'examen du texte doit s'achever demain normalement.
Nous filons maintenant à Valence, dans la Drôme. La vente d'un terrain municipal pour permettre à une école musulmane de s'agrandir fait polémique.
Le maire, les Républicains Nicolas Dragon, avait donné son accord, mais la préfecture de la Drôme lui demande de faire marche arrière. Motif: l'école est soupçonnée d'être proche des frères musulmans. Reportage à Valence, Jean-Luc Bougeon.
Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité.
C'était hier soir en conseil municipal, la vente du terrain tout simplement annulée. Pourtant, juin dernier, tous les voyants étaient au vert pour l'agrandissement de l'école musulmane ouverte à Valence depuis 10 ans. La mairie était d'accord et le rapport de l'éducation nationale était très favorable. Sauf qu'en juillet, la préfète de la Drôme demande au maire de Valence, Nicolas D'Aragon, de faire machine arrière.
Quand l'État, avant la délibération, me dit l'enseignement qui est dispensé est de bonne qualité et pour qu'il soit mieux, il faudrait qu'il déménage, je vends un terrain pour que cette école s'installe, je fais confiance à l'État. Et puis quand le lendemain de la délibération on commence à me dire « vous ne devez pas travailler pour des raisons liées à l'éducation qui est donnée ou à l'urbanisme ou à la sécurité intérieure », j'écoute les personnes qui sont compétentes sur ces sujets-là. Je relève simplement l'incohérence de la position de l'État.
Derrière cette décision, des soupçons de proximité avec les frères musulmans, d'où la colère aujourd'hui de Mourad Jabri, l'un des responsables de l'école.
C'est de la discrimination, c'est aussi simple que ça. C'est un projet qui est républicain. Comment on peut accuser une école d'être proche des frères musulmans? Une école qui fait pas de cours religieux, une école qui souhaite passer sous contrat, une école qui prend pas de financement à l'étranger, c'est complètement incohérent. C'est inacceptable cet argument.
Un responsable qui annonce son intention de porter plainte contre la préfecture et la mairie. Valence, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
C'est une petite révolution dans l'industrie cinématographique. La Chine s'affirme comme le plus grand marché cinéma du monde. Les films chinois représenteraient un quart du box-office mondial. C'est du cinéma aussi, mais il va falloir aimer le suspense. Le football, mission rachat et sauvetage pour l'Olympique de Marseille ce soir en Ligue des Champions. L'OM, qui reste sur 2 défaites consécutives dans la compétition, reçoit le Sporting Portugal à 18h45. Ce soir. Attention, le match est à huis clos.
Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, le cinéma. On continue d'en parler avec Jean Dujardin à propos de la sortie demain du film, ce qui est vraiment le film de la semaine, Novembre, avec lui-même à l'affiche et Sandrine Kiberlin à la réalisation. Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord. À tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Bonjour Jean Dujardin.
Bonjour.
Vous êtes à l'affiche de Novembre, film réalisé par Cédric Jiménez. Ce film nous plonge au cœur des 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Vous incarnez Fred, donc c'est le numéro 2 de la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Ce n'est pas un service particulièrement connu, mais vous êtes au cœur de l'action. Peut-être pour commencer, Jean Dujardin, parce que évidemment, tout le monde y pense, tout le monde va y penser lorsqu'il se retrouvera face au film. Ses souvenirs personnels de ce vendredi 13 novembre 2015. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous en conservez à titre personnel, Jean Dujardin?
Je pense comme une sidération et une grande fragilité. J'étais à Beaune avec Claude Lelouch. On présentait 1+1 avec Elsa Zilberstein. Nous étions au restaurant. C'était très joyeux, puis plus du tout. On est parti très vite. On devait faire un débat ensuite à l'issue de la projection. On est rentré au petit matin dans Paris, un Paris vide, avec des gens assis sur les trottoirs, hagards, en pleurs. Très vite, on va chercher quelque chose de chaud, c'est-à-dire la famille. On va chercher du refuge et puis on va se recueillir. J'habitais à côté du Bataclan et je suis allé là-bas poser une bougie, discuter avec mes enfants, que ce soit essayer d'éclairer un peu, mais c'était tellement de brouillard, c'était sans issue à ce moment-là. C'était très, très dur et ça l'est encore.
Et là, on est 7 ans plus tard.
Ouais.
Et il y a ce film, donc Novembre.
Ouais.
Comment naît ce projet? À quel moment, Jean Dujardin, on vous en parle et vous prenez la décision de le faire? Parce que Évidemment, c'est un peu un film d'histoire sur une des séquences les plus douloureuses quand même de l'histoire de France récente.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de réveiller ce genre de choses. Les Américains le font, on aurait déjà fait peut-être 7 films de plus que nous, mais le fait qu'on ait aussi une mémoire qui se réduit un peu... On a sûrement eu besoin aussi d'en parler, mais après c'est toujours pareil, c'est tout dépend comment on en parle. Ça a été, moi j'ai trouvé ça, quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça passionnant, le travail d'Olivier Demangel. C'était référencé, c'était écrit, c'était réfléchi, c'était pensé.
Le scénariste. Hein.
C'est le scénariste, oui. Il y a une vision en plus de Cédric Jiménez. On sent qu'ils se sont beaucoup parlé. Et puis on est, et là évidemment, il aurait été obscène de montrer, vous imaginez bien, des scènes d'attentats. On n'est pas idiot quand on fait un film, hein. On n'est pas là en train de se dire, ouais, allons-y, on s'en fout de tout. C'est pas ça. Hein.
Mais parce que disons-le, les attentats sont jamais montrés, les terroristes à peine également.
Non, parce qu'on est dans l'onde de choc, on n'est pas dans le choc. On parle des 5 jours qui ont précédé, qui ont suivi, en fait, pardon, les attentats. Les 5 jours, puis les 5 ans, parce qu'en fait, c'est 5 jours pour 3 hommes, mais c'est 5 ans, en fait, pour les 14 autres. Donc c'était d'abord ça, c'est l'immersion totale dans un service qu'on ne connaît pas. L'idée aussi est de parler effectivement de cette période très douloureuse, de la respecter, de la regarder, mais aussi de parler d'un collectif inouï, parce que s'il n'y avait pas ce collectif, ça serait le chaos. Voilà. S'il n'y avait pas ces gens-là à ce moment-là, ça serait le chaos.
Alors vous avez incarné par le passé le juge Michel dans La French, ouais, avec déjà Cédric Jiménez. Là, je le disais, vous êtes le numéro 2 de la SDAT. Est-ce que c'est un personnage... comment dire, qui a vraiment existé, ce Fred que vous incarnez, est-ce que c'est une pure invention? Comment vous avez préparé ce rôle particulier quand même?
Il existe, mais en fait, on ne le prépare pas comme, j'allais dire, tous les autres rôles. On n'y met pas véritablement de psychologie. Évidemment, le film est beaucoup moins romancé même qu'un Bac Nord. On reste essentiellement sur les faits, on reste sur l'événement. C'est l'événement qui doit passer devant. Ça serait indécent de passer devant en disant que j'ai des petits états d'âme, même si effectivement il y a des tourments, même s'il y a la sidération, il y a du choc, mais il y a surtout un travail acharné et il faut absolument trouver une solution parce que dès lors qu'on commence, on est déjà en retard. Ils ont 3 heures d'avance sur nous. Le film est une course contre la montre.
Vous dites d'ailleurs à vos équipes, à un moment, au tout début où démarre l'enquête, il n'y a pas de place aux émotions personnelles. Et effectivement, les dialogues sont limités à de la transmission d'informations, finalement.
Oui, mais c'est là où, justement, Cédric Jiménez est très malin et honnête, pour le coup, parce qu'il aurait été vraiment très malvenu, à un moment, d'essayer de trouver des petites histoires dans cette grande histoire. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on se retrouvait, on s'en est parlé avec Sandrine Kiberlin, avec Agnès Moustier, et puis toute la génération, Samy Outalbali, parce que c'est super intergénérationnel, c'est ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est un film collectif qui parle du collectif avec une nouvelle génération. Donc. Ouais. Mais on se disait, on est fragilisé parce qu'on est entre ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, la proposition, l'idée d'être un flic ou d'être un super flic, et en étant très mortel, c'était plein de mélanges très étonnants. C'est-à-dire que d'habitude, on est protégé par un film. La fiction nous autorise, à la limite, beaucoup de choses. Là, on est quand même sur les coutures, quoi. Faut faire attention. Ouais, faut faire attention.
On aurait pu avoir à l'écran un film d'action, parce qu'évidemment, des attentats, des explosifs, des armes à feu, des terroristes. Et finalement, c'est essentiellement un film d'enquête.
De procédure.
Et paradoxalement, c'est extrêmement intense, du début jusqu'à la fin. Vous avez l'air épuisé, d'ailleurs, du début à la fin du film.
Oui, on était épuisé, d'ailleurs. En vrai, on était vraiment épuisé. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il nous a tous épuisés. C'était une volonté de nous faire tourner la nuit et de... Oui, parce qu'effectivement, on pourrait tomber dans des choses très mécaniques, très faciles, et rester essentiellement dans le suspense. C'est pas tant ça, c'est de montrer un système. Effectivement, leurs armes, c'est le code pénal et un dictaphone. Et pour la jeune génération, qui réagit beaucoup plus à l'instinct et qui est beaucoup plus fragile, comme le fait le personnage d'Anaïs, c'est intéressant de les confronter. Voilà, elles sont là, les confrontations. Mais sinon, non, c'est un cap qu'on doit garder absolument.
On évoquait la temporalité, ça fait 7 ans ces événements, c'est à la fois loin et si proche. Qu'apporte la fiction, d'après vous? Qu'apporte le fait de faire un film sur ces événements que l'on vient de juger en plus? C'est ça qui est frappant, il y a une collision entre l'actualité judiciaire et la sortie du film.
Se souvenir et se célébrer, je pense, se souvenir des victimes. De toute façon, c'est toujours bon de reparler des victimes, de ces gens qui n'ont rien demandé, qui sont morts pour rien. Et pour ne pas oublier qu'il y a aussi des gens qui sont là aussi pour nous protéger. Mmh. Et que sans ces gens-là, c'est le chaos. Qu'on soit politisé ou non, je m'en fous. J'ai rencontré des gens de la BRI, j'ai rencontré des gens du RAID, j'ai rencontré des humains qui ont un courage assez incroyable. On a souvent affaire d'ailleurs à ces services quand on prépare un film. Et nous, on se dit, on a plusieurs prises. Eux, ils n'ont qu'une seule prise.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, d'ailleurs, lors de la préparation du rôle? Parce que j'en imagine que certains d'entre eux ont vécu ces événements-là.
Ils parlent d'adrénaline, ils parlent que les choses ont changé, qu'ils se retrouvent maintenant face à des terroristes qui terrorisent véritablement, c'est-à-dire qui obligent à faire des tirs de saturation, où il n'y a plus aucune possibilité pour parler. Ils sont là juste pour tuer. Et eux, les premiers.
Vous vous dites que ce film, quelque part... C'est une forme d'exception dans votre carrière cinématographique, puisque...
Ça, je ne sais jamais d'avance.
Vous avez parlé de célébration, de souvenirs. C'est presque une stèle, finalement.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, non, mais il y a des films comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des films, effectivement, où... même parfois dans la comédie, on peut dire des choses. Hein. I feel good, j'ai le sentiment qu'il y avait des vertus. Et pourquoi pas des solutions. De la même manière, parfois, il y a des films, ça s'appelle des événements, comme... comme J'accuse, par exemple, c'est quelque chose qui nous constitue. C'est encore là, il y a encore de l'anti et du pour. Parfois, j'ai envie de parler de mon pays. Ça ne veut pas dire que je me sens missionné, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, et c'est le cas, ça peut faire du bien de se souvenir et ça peut faire du bien de s'unir. Ce que j'aime le plus dans ce film, c'est ce mot qui revient, c'est le collectif. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est... Par les temps qui courent, ça nous ferait du bien.
Merci beaucoup Jean Dujardin.
Merci à vous.
Novembre, signé donc Cédric Jiménez avec à l'affiche Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Anaïs de Moustier, Jérémy Régnier. C'est à partir de demain sur tous vos écrans. Il est 7h20 sur Europe 1.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
C'est demain au cinéma. Aurais-je précisé tous vos écrans? On pourrait croire que c'est sur votre téléphone. Non, c'est au cinéma. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Question ce matin, est-ce qu'il faut plafonner le prix du gaz qui arrive en Europe? Ah, les pays européens sont divisés.
Ouais, il y a deux positions. La position défendue par la France, l'Espagne, l'Italie ou la Pologne, qui consiste à vouloir plafonner le prix du gaz acheté par les pays européens, quelle que soit la provenance de ce gaz. L'idée principale, là, c'est de lutter contre l'inflation. Bon. L'autre position, elle est défendue par l'Allemagne et la Commission européenne. Il s'agit de plafonner uniquement les prix des importations de gaz russe. Il s'agit dans ce cas de limiter cette mesure à un effet sanction contre la Russie afin d'éviter d'envoyer en Russie de l'argent et d'alimenter le budget de l'armée. Je dois vous dire que je suis plutôt convaincu par l'argument allemand dans cette affaire. Il y a aujourd'hui une pénurie de gaz dans le monde. Instaurer un prix plafond pour tous les pays auxquels on achète, ça n'augmentera malheureusement pas la disponibilité du gaz. Ça nous fait même courir des risques de rupture d'approvisionnement.
L'Allemagne est dans une situation énergétique et économique compliquée. Ça explique son positionnement peut-être.
Quel changement Au fond, le modèle allemand, c'était on exporte beaucoup de nos produits vers l'Asie grâce à notre industrie alimentée avec du gaz russe. Bon, aujourd'hui, les marchés asiatiques sont déprimés, surtout le marché chinois. Le gaz russe est de moins en moins disponible. C'est donc tout le modèle économique allemand qui est remis en cause par la guerre. Vous noterez d'ailleurs, Dimitri, que les Allemands vont mettre en place un bouclier énergétique à 200 milliards d'euros pour protéger les entreprises et les particuliers. La Commission européenne, par la voix de Thierry Breton, pointe des dépenses excessives, pas forcément compatibles avec les règles de concurrence européennes, règles auxquelles les Allemands sont particulièrement attachés. Vous voyez, c'est vraiment l'ironie de la situation et un renversement de perspective.
Est-ce que l'unité européenne face dans cette crise russe, cette crise ukrainienne créée par la guerre en Ukraine, est menacée par la crise du gaz, d'après vous?
Ouais, écoutez, à chaque crise, on a craint le pire, mais finalement, quand on prend du recul, l'Europe a toujours résisté, elle s'est même renforcée. Et puis on voit aujourd'hui les déboires du Royaume-Uni en pleine une crise financière qui fait cavalier seul. Alors, l'Union européenne est sous pression, vous avez raison, il y a des tensions entre les pays, tous n'ont pas la même stratégie, mais je vais vous dire, il vaut mieux être dedans que dehors.
Ouais. Tiens, il y a ce chiffre donné par Dominique Seux des Échos ce matin qui nous apprend que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est 100 milliards d'euros que l'Europe a versé à la Russie pour ses hydrocarbures. L'Allemagne à elle seule, c'est 22 milliards. La France, 6 milliards d'euros. Et je vous rappelle l'embargo sur le pétrole russe entré en vigueur le 5 décembre. Merci beaucoup Nicolas Bouzou.
À demain.
7h22.
C'était l'édito éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
La rentrée parlementaire hier avec Elisabeth Borne qui réaffirme l'intention de la France de rendre le coût de la guerre en Ukraine insupportable pour la Russie. La Première ministre annonce aussi une aide financière à partir de fin novembre pour les Français qui hébergent des réfugiés ukrainiens. Les députés qui examinent la réforme de l'assurance chômage dans le même temps, on apprend dans les Échos que 25 à 42% des salariés qui pourraient prétendre à l'assurance chômage n'en font pas la demande. soit jusqu'à 690 000 personnes. Et puis il y a du foot à suivre ce soir avec la troisième journée de la Ligue des Champions. Marseille reçoit le Sporting Lisbonne. Coup d'envoi 18h45 à huis clos.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Nous sommes le 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Histoire de bêtes donc avec vous ce matin. Nous sommes en avril 1963. Une panthère s'échappe d'un cirque en Ile-de-France. Et Europe 1, Europe numéro 1, mène l'enquête.
Oui, c'est une auditrice qui appelle la rédaction d'Europe 1 parce qu'elle a vu une cinquantaine de policiers cherchaient un animal qui s'est effectivement échappé du cirque situé à Saint-Denis. C'est une panthère noire, un animal très dangereux, dit Franck Zavatta, le directeur du cirque.
Nous avons reçu avant-hier 4 panthères noires en provenance de Bangkok.
Ah, où était-elle la panthère qui s'est échappée?
Comme vous le voyez, c'était dans ce sabot.
C'est dans une petite caisse?
Dans une caisse spéciale, qui est une caisse qui est fabriquée pour le transport des fauves par avion.
Sauf qu'au petit matin, la porte était ouverte. Il y a des traces de burin, donc quelqu'un aurait fracturé la caisse. 50 policiers traquent la bête et un homme témoigne sur Europe 1 quelques heures plus tard. Il s'est fait mordre par la panthère.
Ils ont dit que c'est un panthère, quoi. C'est large, les dents.
Traces de dents?
Oui, c'est ça.
Quand avez-vous été attaqué?
Ce matin, 5h25 exact. Il a sauté sur moi.
Et cet homme a pris un taxi pour aller à l'hôpital.
Alors, les policiers ratissent tout le département pour traquer la panthère, toujours introuvable.
Oui, et finalement, une directrice d'école prévient la police parce qu'elle a vu la panthère dans le sous-sol de l'école. Il faut la récupérer vivante. Elle coûte cher, entre 1 et 3 millions de francs. Et le journaliste d'Europe 1, Maurice Bruzek, est là lorsque la panthère est capturée et guidée avec un jet d'eau. Écoutez cette panthère.
Elle est à 3 mètres de nous. Dirigez le jet un peu plus haut, dirigez sur la gauche.
Attention au filet là-bas, attention au filet. Elle est tout près, elle est à 57 mètres, moi, elle est dans le filet.
Bravo. Elle nous a sauté dessus deux fois, mais on a été paré par le filet. Quoi.
Monsieur Francky, tout est bien qui finit bien, vous êtes satisfait?
On ne peut pas être autrement, voyez-vous, nous avons récupéré cette panthère noire. Vous avez pu vous rendre compte par vous-même que c'est un des fauves les plus méchants qui existent.
Le patron du cirque mettra ensuite 8 mois pour dompter cette panthère noire pour qu'elle puisse participer à son premier numéro au cirque.
Voilà, le feulement d'une panthère noire. On n'entend pas souvent ça à la radio, c'était sur Europe 1. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Dans un instant, le journal de Roman Hockey et la météo d'Anis Haddadi, 7h26.
Europe Matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, de l'argent facile, mais à quel prix? Sur Europe 1, on va parler ce matin d'un business qui prend de l'ampleur chez les étudiantes confrontées à la précarité. Certaines vendent des photos de leurs pieds sur Internet et un commerce qui pose question. On voit ça dans un instant. Un procès probable pour Éric Dupond-Moretti, une mise en examen sous le statut de témoin assisté pour Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. La justice rattrape la Macronie pour le plus grand plaisir des oppositions. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, boycott en série pour le mondial de football au Qatar. Paris n'installera aucun écran géant pour suivre la compétition. Décision prise également à Marseille, la ville du football où nous retrouverons notre correspondant. Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Jusqu'où peut-on aller pour s'en sortir? Où est finalement la ligne rouge pour trouver de l'argent? Des questions qui tiraillent les étudiants confrontés à la précarité, au point d'accepter pour certains de vendre des photos de leurs pieds sur Internet. Une pratique qui interpelle ce matin sur Europe 1. Ce business en eau trouble prolifère sur les réseaux sociaux, alimenté par les demandes de fétichistes qui proposent de l'argent facile à ces jeunes. Geoffrey Branger, ces photos peuvent rapporter plusieurs dizaines d'euros.
C'est ça, les étudiantes avec qui j'ai pu échanger touchent entre 200 et 800 euros par mois. Une photo peut se vendre au maximum jusqu'à 50 euros à certaines conditions, avec des bas, des talons ou du vernis par exemple, mais la plupart du temps c'est plutôt aux alentours de 15-20 euros. Sophie est étudiante en lettres à Paris, ça fait maintenant 8 mois qu'elle commercialise ses photos de pieds. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas revenir en arrière.
Ça me permet de manger en fait. Les APL et ce que mes parents me donnent, ça paye juste mon loyer. Avec les photos, je fais en gros 400 euros les petits mois, ça a tout changé.
En fait, elle considère vraiment cette activité comme un job étudiant.
Je fais ça 10, 15 heures par semaine peut-être. Il faut trouver les clients et discuter avec eux et tout, parce qu'ils veulent qu'on leur donne envie d'acheter le produit en fait. Il y a un côté un peu téléphone rose et ça prend du temps aussi.
Ce business qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux ne s'arrête pas aux images ou vidéos. Certains fétichistes vont même jusqu'à acheter les chaussettes ou chaussures usagées des personnes à qui ils ont acheté des photos.
Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1.
Et Europe 1 à 7h32, ils restent à leur poste. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Les deux hommes sont soutenus par l'exécutif malgré leurs déboires judiciaires.
Éric Dupond-Moretti annonce d'ailleurs un pourvoi en cassation, ce qui suspend son renvoi devant la Cour de justice de la République. Scénario inédit pour un ministre en exercice soupçonné d'avoir profité de son statut pour régler ses comptes avec des magistrats. Alexis Kohler, lui, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
Il n'aurait pas déclaré ses liens avec l'armateur MSC, entreprise fondée, dirigée par les cousins de sa mère. Le bras droit d'Emmanuel Macron, son jumeau, comme souvent on l'appelle, conteste tout délit. Une situation intenable pour Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Écoutez.
On savait que Emmanuel Macron et les gens qui l'entouraient étaient dans la collusion avec ce qu'on pourrait appeler le grand capital, ou en tout cas les intérêts financiers, les intérêts d'argent. Et là, ça vient se vérifier dans deux affaires distinctes. Pour Alexis Kohler, MSC, moi j'avais suivi le dossier de très près avec Anticor et la plainte d'Anticor au départ, le classement sans suite. Vous savez, c'est l'affaire dans laquelle Emmanuel Macron a couvert Alexis Kohler. Peut-être qu'il y a à travailler sur le démantèlement d'un certain nombre de systèmes mafieux dans le pays. La principale difficulté, c'est que si la pyramide du système mafieux s'appelle Emmanuel Macron et que son premier acolyte, c'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ça va être compliqué, c'est pourquoi je pense que c'est une affaire éminemment politique et extraordinaire sous cette 5e République.
Le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, au micro d'Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
En Iran maintenant, les manifestations se poursuivent, la répression néanmoins ne stoppe pas la fronde, au moins 92 morts, d'après une ONG iranienne en exil.
Oui, le président américain Joe Biden a d'ailleurs promis hier soir des sanctions contre Téhéran. Le régime iranien accuse les États-Unis à l'inverse d'être à l'origine de cette révolte, un combat pour la liberté soutenu aussi par des hommes comme Shiavash. Un témoignage rare qu'on vous propose ce matin sur Europe 1. Le jeune Iranien s'est confié à Clotilde Dumais.
Malgré les coupures internet, ce membre de la résistance a réussi à me faire parvenir son témoignage via messagerie cryptée.
Les commerçants ferment leurs magasins, les étudiants descendent dans la rue. C'est la situation dans la plupart des provinces. Tout le monde est bouleversé, tout le monde est en colère.
Au début, les Iraniens manifestaient pour les droits des femmes. Ils demandent désormais la fin du régime, quitte à risquer leur vie.
Le régime de Khamenei tue des gens. Il a tué beaucoup de jeunes, mais les gens continuent à manifester et à scander des slogans contre Khamenei et Raïssi en les traitant de dictateurs et de bourreaux.
Près d'une centaine de personnes sont mortes depuis le début des manifestations, d'après une ONG locale. Mais Siavash l'assure.
Même en cas de catastrophe humanitaire ou de génocide, le peuple vaincra.
Un témoignage rare d'un jeune Iranien recueilli par Clotilde Dumais pour Europe 1.
7h35, ni fan zone, ni écran géant pour la prochaine Coupe du Monde de football. Paris boycotte à son tour la compétition au Qatar.
Oui, annonce de la municipalité. Hier soir, en cause, le traitement des travailleurs immigrés. D'après les Nations Unies, 50 personnes seraient mortes sur les chantiers des stades, un boycott déjà acté dans 7 autres villes françaises, Strasbourg, Lille, Bordeaux et même Marseille, la ville du foot, Stéphane Burgat.
Oui, faites ce que vous voulez de votre côté, mais la mairie ne programmera rien, résume l'adjoint au sport Sébastien Gibrayel, qui ne se retrouve pas dans ce mondial.
On aime l'OM, on aime le ballon, évidemment, mais pas à n'importe quel prix. Progressivement, cette Coupe du Monde s'est transformée en catastrophe humaine et environnementale. On appelle les citoyens à la sobriété énergétique et dans quelques semaines, on va avoir des stades ouverts où on aura une climatisation à plein tube, donc voilà, on ne s'y retrouve pas.
Et alors, les Marseillais, dans tout ça, du côté du Boulodrome de Bonneveine, cette décision fait débat. C'est une bonne idée pour Jo.
Malheureusement, ça serait dommage parce qu'il y a tellement de mordus d'être privé de ces beaux matchs. Mais dans un sens, il vaut mieux se priver que de regarder des images qui peuvent nous faire mal au cœur. Moi, je suis humain et je pense à tous ces ouvriers qui sont morts.
Jean-Claude, lui, ne comprend absolument pas ce boycott.
Marseille, c'est une ville de football. Le symbole, il est très fort, j'en doute pas. Mais on l'attend tous, regardez. Ah non, mais c'est important. On a assez d'établissements qui ont des grands écrans pour continuer la fête. Et c'est tous les 4 ans, il ne faut pas oublier. Hein.
Et d'autres, au final, relativisent sur l'absence d'écrans géants en plein air, puisque courant novembre, décembre, même à Marseille, les soirées peuvent être très fraîches.
Stéphane Burguette, correspondant d'Europe 1 à Marseille. 7h36, on change de tenue, Dimitri. Blouson en cuir et robe 70s. Grise, bien sûr, la comédie musicale qui raconte, vous le savez, depuis 1971, l'histoire d'amour adolescente entre Danny et Sandy. Alors, je ne sais pas si vous aviez un perfecto déjà à cette époque, Dimitri.
J'étais pas né, mais bon, c'est pas grave.
Oh, vous avez peut-être quand même un perfecto. En tout cas, vous pourrez le mettre pour aller voir le spectacle qui est de retour, version 2022. Répétition avec Marie Jiquel.
Oubliez les perfectos en cuir et les blousons roses de la comédie musicale mythique.
On a du sequin, des chemises en plissé aussi, fuchsia, qui vont contraster avec un bleu.
Dorian Benn, de la troupe Grease is the World.
On a décidé de se dire tout simplement, est-ce qu'on a vraiment besoin des personnages pour raconter l'histoire de Grease? C'est aussi une histoire d'émancipation. Et pour moi, ce qui me parle dans l'émancipation, c'est aussi la couleur.
Pas de Sandy ou de Danny, les personnages de Grease. Sur scène, la troupe reprend en chœur les tubes aux arrangements modernisés. Mais les paroles et donc les messages restent les mêmes. Alexis Loison, artiste et coproducteur du spectacle.
Les problématiques qui ont été abordées sont toujours les mêmes aujourd'hui. Quelle est notre place dans la société? Quelle est notre place au sein d'un lycée? Les histoires de sexe. Aujourd'hui, on les raconte d'une manière un petit peu différente pour montrer qu'en fait, Grease est assez intemporel.
Cette version actualisée ne freine pas certains automatismes.
C'est toujours très marrant parce que quand on fait le « Dans summer », il y a tout le temps quelqu'un dans le public qui lance un « Night ».
Des spectateurs grisés. Voilà, et rendez-vous au Casino de Paris ce week-end du 7 au 9 octobre, puis en tournée dans toute la France. Dimitri, on reste au rayon comédie musicale.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux dits.
Vous aurez reconnu cette voix si particulière, celle de Julien Clerc, bien sûr. La comédie musicale R, succès de l'été 1969. Et le chanteur Julien Clerc qui fait donc ses 75 ans aujourd'hui.
Eh ben oui, voilà, bon anniversaire à Julien Clerc, qui je le crois nous écoute de temps en temps, le matin sur Europe 1.
Et on l'écoute
et en particulier
aussi,
vous, Romain Oclet. Ben maintenant, il
ah, je suis fan, j'assume.
Et alors là, je pense qu'il ne vous manquera plus. Merci Roman, 7h39, on vous retrouve tout à l'heure à 9h. Tiens, tenez, accrochez-vous, c'est Honoré de Balzac qui dit... de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Un déluge de mauvais goût, une fable sans possibilité, par-dessus tout un ouvrage ennuyeux. Voilà où nous mène l'amour-propre excessif. Des chroniques littéraires de ce genre, il y en a plein. Elles sont compilées dans le livre du jour, choisi par Nicolas Caro. A tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, les perles de culture de nos deux explorateurs du jour, Nicolas Caro. Mm-hmm. As usual, bonjour Nicolas.
Bonjour, recueil de chroniques d'époque sur les chefs-d'œuvre du 19e notamment.
Voilà, vu par la presse, et on est frappé des fois par l'absence totale de lucidité sur certaines œuvres. En tout cas, la postérité en a dit autre chose que sur l'instant. Et Caroline Speller pour le jeu vidéo de la semaine. Bonjour Caroline. Football cette semaine?
Eh oui, football. Ouais. FIFA.
FIFA 2023. C'est, voilà, c'est un des jeux les plus vendus.
Ça devient même.
Ouais. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
On va au Royaume-Uni ce matin. Le gouvernement britannique renonce à baisser les impôts pour les plus riches. La rébellion du parti conservateur qui tient son congrès oblige la première ministre Liz Truss et son ministre des Finances à manger leur chapeau.
Oui, les Anglais aiment la viande bouillie, mais la politique saignante. Il y a 5 ans, Theresa May, alors Premier ministre, avait vécu un calvaire au Congrès conservateur sous les moqueries, incapable de finir son discours entre deux quintes de toux. Il y a 3 mois, Boris Johnson s'est retrouvé seul au 10 Downing Street, lâché par ses ministres qui l'ont obligé à se faire harakiri. Eh bien, les putschistes ont pris le goût du sang. Ils ne vont pas se contenter de bizuter Liz Truss demain en clôture du Congrès conservateur. Ils vont l'étrier. Elle devait rassembler le parti. Eh bien, c'est fait. Le parti qui est mal remis du Brexit, elle le fait, mais contre elle. Elle les mène à la défaite, comme elle a mené le pays au bord du précipice. La moitié des Britanniques pensent déjà qu'elle devrait démissionner.
Alors, son plan pour la croissance a créé une véritable panique la semaine dernière.
Oui, les marchés financiers ont réagi au quart de tour. La livre sterling a dégringolé et les taux d'intérêt ont bondi. arrondis, les prix flambent, les ménages ne peuvent plus emprunter. Les Anglais s'inquiétaient déjà pour leurs économies et pour leur chauffage. Voilà qu'ils doivent avoir maintenant redouté l'explosion de la dette. La secrétaire américaine au Trésor s'inquiète publiquement. Le FMI exhorte à limiter les baisses d'impôts qui ne sont pas financées. Tout ça est humiliant. Londres se prenait pour Singapour et se voit traité comme Caracas. Liz Truss a fait face. Quand on a Margaret Thatcher comme modèle, on ne se couche pas devant l'adversité. Dimanche après-midi donc, elle assurait qu'elle s'en tenait au plan. Pas question de revenir sur la suppression de la tranche à 45% dans le barème de l'impôt sur les revenus. Mais lundi matin, le ministre des Finances a enterré la mesure emblématique sans plus de commentaires. Les 10% de ménages qui assurent 60% de l'impôt continueront à payer le prix fort. Liz Truss a fait demi-tour et c'est désormais un demi-premier ministre. Cette dame de fer est une girouette.
Voilà, elle plie, mais certains diront aussi, Vincent, qu'elle fait preuve de réalisme.
Mais elle fait surtout preuve d'amateurisme. C'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance. Il y a un mois pile, elle a été la dernière à rendre visite à la reine, qui l'a nommée. Elle a eu le temps de regagner Londres, d'annoncer 150 milliards de livres d'aide pour régler les factures de chauffage. Et Elisabeth II est morte. L'effet de souffle a effacé la mesure qui devait rendre le nouveau gouvernement populaire. Le deuil royal a déployé ses fastes et quand les Britanniques ont repris leurs esprits, il n'y avait plus de place pour un état de grâce. C'est peut-être pour ça qu'elle vient d'interdire à Charles III de se rendre au Caire à la COP27 pour y faire un discours sur la défense de l'environnement, un sujet qui lui tient à cœur. Cette vacherie est une gaffe de plus. Le vieux roi s'est préparé pendant 50 ans et il aurait pu enseigner à la débutante comment avaler les couleuvres et surmonter l'impopularité.
Signature, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h46.
Europe Matin.
La culture, un pas de côté, Nicolas, ce matin, avec non pas un roman de la rentrée littéraire, mais un recueil de chroniques.
Oui, c'est facile, le livre en question s'appelle « Chronique » au pluriel, avec un point d'exclamation sous-titré « 50 chefs-d'œuvre de la littérature vus par la presse ». C'est édité chez Flammarion et Retro News, le site de presse de la BNF. Ce sont des critiques donc d'époque sur Flaubert, Stendhal, George Sand, Dumas, etc. Ça va jusque dans les années 50.
Et j'imagine que ces classiques n'étaient pas toujours encensés au moment de leur parution. Bah sinon, c'est pas drôle. Hein.
Exactement. Tenez, écoutez cet extrait d'un article paru dans la Gazette de France en 1831. Sous tous les titres, sous toutes les couleurs, cette honteuse production ne sert qu'à ajouter par une preuve à bien d'autres qu'il est plus que temps que cet écrivain change encore une fois de nom et pour toujours de manière et de style. Oula, ça doit être vraiment médiocre. C'est ouais. Le Rouge et le Noir de Stendhal. Une autre, Le Figaro. Beaucoup de Figaro, il faut en parler à Alexis Brézé. Ouais. En 1857, à propos, accrochez-vous, d'un certain Gustave Flaubert, Madame Bovary. Monsieur Flaubert n'est pas un écrivain. Description à part, son style est indécis, incorrect, vulgaire. Bim. Ouais. Céline prend cher aussi en 32 au sujet de Voyage au bout de la nuit. Voilà ce que dit la Revue de Paris. C'est un roman extrêmement faible. On y marche interminablement dans l'ordure, ce qui ne serait rien, quelques dégoûts qu'on ressente, si le livre était bon. Mais il ne l'est pas, le livre ennuie.
Waouh, le livre ennuie. Et pourtant, ces classiques sont restés. C'est même des chefs-d'œuvre. La postérité a donné raison aux écrivains.
Absolument. Mais bon, déjà, j'ai choisi les critiques négatives, c'est plus amusant. Mais il y a aussi, pour les mêmes livres, des concerts de louanges, heureusement. Et puis d'ailleurs, on a bien le droit de ne pas aimer un livre, tout classique soit-il devenu. Peut-être que ces journalistes disparus ne changeraient pas une ligne. Mais quand même, ça incite le critique à l'humilité. Et puis, c'est pas un livre conçu pour montrer à quel point on se trompe. C'est aussi un très beau témoignage du temps. Il y a des photos, des archives. Et parfois aussi, on voit comment les livres et leurs critiques sont aussi typiques de leur époque. Il y a des romans étrangers, bien sûr, comme ceux de Charles Dickens, l'auteur de David Copperfield. On y mange trop, note le journal de la presse en 1858 chez nous. Les appétits se dorent des reflets du vin de champagne et l'on engloutit truffes et faisans par passion. Dans le roman anglais, on mange par faim. Oui, la digestion s'accomplit avec une régularité merveilleuse mais monotone. Mmh. Au passage, quand même, il y avait beaucoup de style, y compris dans la méchanceté, dans la presse de l'époque. Voilà, c'est une belle manière de revisiter les classiques.
Voilà, et les vacheries des auteurs entre eux. Regardez ce que disait Zola. Des fleurs du mal de Baudelaire. D'ici un siècle, l'histoire de la littérature française ne mentionnera cette œuvre que comme une simple curiosité. Bien vu l'aveugle. Hein. À la chronique, 50 chefs-d'œuvre de la littérature vue par la presse, c'est paru chez Flammarion. Tiens, je vous signale qu'Étienne Manchette, l'auteur de ce recueil, sera à 9h l'invité de Thomas Hill dans Culture Média sur Europe. Ce sera l'occasion de prolonger la conversation. C'est merci Nicolas. Allez, Caroline Speller. On va parler jeux vidéo maintenant. Oui. Il y a une licence qui déchaîne les passions chaque année. Oui. C'est le jeu vidéo de foot FIFA.
Bah, oui.
J'étais PES.
Oui, ah, bah, c'est plus PES. Attention, maintenant ça s'appelle eFootball PES. Bon, enfin bon, bref. Il faut dire que FIFA, c'est la simulation de sport la plus vendue au monde. Rien qu'en 2021, FIFA 22 s'est vendu dans 200 pays, avec en moyenne 89 millions de parties jouées par jour. Ça fait du monde. Et en France, par exemple, FIFA est régulièrement désigné comme le produit culturel le plus vendu depuis 10 ans. Désolé, Nicolas.
Alors, sorti donc ces jours-ci de FIFA 23. Je ne sais pas le combien, c'est pas le 23e, hein, c'est pour 2023.
Tout à fait.
Et le jeu d'ailleurs va changer de nom.
Le jeu va changer de nom, ça s'appelle FIFA 23.
Mais
il va changer de nom l'année suivante, oui, du coup, parce que en fait, il a carrément fait un divorce avec la FIFA, la Fédération internationale de foot, parce qu'après 30 ans de partenariat, l'éditeur américain Electronic Arts renouvelle pas son contrat. La raison est plutôt simple: pour utiliser la licence FIFA en exclusivité, il ne faut pas donner maintenant 150, mais 250 millions de dollars par an, ça fait à peu près 1 milliard tous les 4 ans. Donc Electronic Arts, pensant quand même être à l'origine du succès du jeu, a dit non, gentiment, et sortira en 2023 EA Sports FC.
Voilà. Bon, sachant que FIFA 22, je le signale, a rapporté 1,8 milliard à l'éditeur. Hein. Donc bon, en attendant, qu'est-ce qu'il vaut ce FIFA 23?
Alors je vais casser le suspense tout de suite. FIFA 23 est le jeu de foot le plus complet. Alors on a les matchs classiques, le mode carrière, la création d'une équipe avec ses joueurs préférés et même du foot de rue. Mais attention, c'est surtout la simulation la plus réaliste, autant par ses animations que ses sensations de foot et son contenu. Car FIFA 23, attention, c'est 30 ligues, 100 stades modélisés, 700 équipes et 19 000 joueurs et joueuses. Parce que oui, je dis joueuses, car cette année, c'est enfin leur consécration avec l'arrivée des clubs féminins et des championnats anglais et français.
Et les matchs de foot, c'est aussi une ambiance, hein. C'est bien restitué dans le jeu?
Alors totalement, c'est comme si on était devant son écran de télé. Les grondements de stade et les commentaires live avec les voix de Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca qui remplacent Hervé Matou après 16 ans au micro de FIFA.
Mais c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien.
Vous entendez les chants des supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football.
Il dit n'importe quoi, mais c'est ça qui est
drôle. C'est ça l'ambiance. Alors FIFA 23 est disponible sur toutes les plateformes. Attention, je voudrais faire un petit focus sur la version Switch de Nintendo, puisqu'elle s'appelle Essentielle. Elle est donc moins chère, mais attention, elle est moins belle et il y a moins de contenu que les autres consoles comme Xbox, PlayStation et PC.
La version low cost, donc, si j'ai bien compris.
Donc attention.
Merci Caroline Speller. À la semaine prochaine, Nicolas Caro. À demain. Bonne journée à tous les deux. 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince et le journal permanent.
Les salaires des enseignants français toujours à la traîne du CP à la terminale, selon l'OCDE. Exemple, au collège, l'année dernière, les professeurs touchaient 16% de moins par rapport à la moyenne de l'OCDE. Alors que la Sécurité sociale fête aujourd'hui les 77 ans de sa création, la carte vitale va connaître une petite révolution en étant accessible directement depuis un smartphone. L'expérimentation va être lancée dans 8 départements, comme le Puy-de-Dôme, la Loire-Atlantique ou encore les Alpes-Maritimes d'ici quelques semaines. Et puis après Reims, Marseille, Bordeaux, maintenant Paris, la capitale, se joint au boycott de la Coupe du Monde de foot au Qatar qui commence dans un mois et demi. Aucun écran géant ni fan zone ne seront installés dans la ville.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, renvoyé hier en procès devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Alors il s'est pourvu en cassation, je le signale. Le même jour, on apprend qu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, a été mis en examen dans une autre affaire pour le même motif. Lundi 3 octobre 2022, pour Emmanuel Macron, journée à marquer d'une pierre noire, Alexis.
Oui, ça, indubitablement. Vous vous souvenez, Dimitri, du fameux aphorisme chiracien « Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille ». Si l'on n'en avait pas déjà maintes fois éprouvé la profonde vérité, on en viendrait presque à s'interroger sur cette étrange coïncidence qui veut que deux piliers du macronisme soient ainsi frappés le même jour. Et on voit déjà l'utilisation que les amis de Jean-Luc Mélenchon s'apprêtent à faire de ce curieux hasard qui vient offrir à leur propre turpitude un opportun dérivatif. Oubliez Quatennens, oubliez Bayou, oubliez Sandrine Rousseau, l'occasion est trop belle de mettre en cause l'intégrité morale du pouvoir macronien, au mépris de la présomption d'innocence qui, rappelons-le, s'applique à Éric Dupond-Moretti comme à Alexis Kohler. et au mépris aussi de la simple observation des faits.
Alors avouez tout de même que politiquement, pour le président de la République, comme pour les intéressés, la situation ne va pas être simple à gérer.
Oui, ça c'est sûr. Que le premier collaborateur du chef de l'État, que son jumeau, comme il dit, se retrouve mis en examen, même si cette mise en examen est la conséquence inévitable et absolument prévisible hein, d'une plainte avec constitution de partie civile, qu'un personnage aussi central donc soit mis en examen, c'est absolument inédit. Et c'est vrai qu'en ce début de quinquennat et en ces temps de devoir d'exemplarité, qu'on le veuille ou non, la situation n'est pas vraiment de nature à améliorer la sérénité de l'Élysée ni à renforcer l'autorité d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, que le garde des Sceaux puisse, si la Cour de cassation le décide ainsi, puis qu'il puisse comparaître devant la Cour de justice de la République, alors même chose jamais vue qu'il sera encore en fonction, c'est plus invraisemblable encore. Du point de vue du fonctionnement des institutions, ce ministre de la Justice jugé par des juges qu'il est censé diriger, qui ne lui dresse même plus la parole et qui défie ouvertement son autorité, c'est tout bonnement ahurissant. Mais dire cela, ça ne doit pas nous condamner à ne pas voir ce qui se joue. Avez-vous remarqué qu'en coulisses de ces deux affaires, on retrouve toujours les mêmes à la manœuvre Dimitri ? L'association d'extrême-gauche Anticor, le syndicat de la magistrature, célèbre pour son fameux mur des cons, les journalistes justiciers de Mediapart qui ne font pas mystère de leur intention de renverser le système, et bien sûr le parquet national financier, cette machine infernale inventée par François Hollande pour détruire Sarkozy et Fillon et qui dévore aujourd'hui ceux qui l'ont créé. Ce que nous vivons, chacun a bien compris, c'est un nouvel épisode de la longue guerre entre d'un côté les juges, appuyés sur leurs alliés médiatiques, et de l'autre côté les politiques. Alors c'est vrai, les seconds ne sont pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas sûr qu'il faille souhaiter la victoire des premiers.
Vous voulez dire que dans cette guerre, Emmanuel Macron a raison de tenir bon en refusant de se séparer d'Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti ?
Écoutez, je ne sais pas s'il a raison, mais il me semble, après ce qu'il a dit, qu'il risquerait gros à les lâcher. Le droit d'abord ne lui en fait aucune obligation, et jusqu'à preuve du contraire, quoi qu'on pense de l'un ou de l'autre, c'est sur le droit, tout le droit, rien que le droit que nous devons lui régler. Alors c'est vrai, certains magistrats n'ont jamais accepté la nomination de l'avocat Dupond-Moretti. D'autres, et en vérité c'est toujours les mêmes, considèrent que tout ce qui est à droite de la NUPES doit être renversé, c'est comme ça. Mais en démocratie, il n'est pas inutile de le rappeler, ce n'est pas au juge, c'est au peuple, c'est-à-dire aux électeurs qu'il appartient d'en décider.
Merci beaucoup Alexis Brézet du Figaro. La une de votre journal ce matin, les Français et le travail, le grand bouleversement. 7h56.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Nous sommes le 4 octobre, c'est la Saint-François d'Assise, je vous le signale, l'autre Christ, hein, comme on l'appelle au sein de l'Église, canonisé 2 ans seulement après sa mort. C'est assez rare pour être souligné. À 8h13, à juste après le journal, au micro de Sonia Marbrook ce matin, c'est Bruno Retailleau, notre invité, le président du groupe LR au Sénat et sénateur de la Vendée. Dans un instant, la météo, 7h57. Nous sommes le mardi 4 octobre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Une question à la une ce matin. Faut-il mieux payer nos enseignants ? Les négociations salariales viennent de démarrer entre le ministre de l'Éducation et les syndicats. Un rapport de l'OCDE confirme que la France ne rémunère moins ses enseignants que les autres dans ce journal comparatif avec nos voisins européens. Pas question pour la Macronie de plier sous les bourrasques de la justice. L'Élysée continue de soutenir Éric Dupond-Moretti et Alexis Kohler, pourtant rattrapés par la justice. Question également ce matin. Le président est-il affaibli par ses affaires. Réponse avec Arthur Delaborde dans un instant. Et puis sortez les mouchoirs, la grippe est là, reléguée par le Covid ces 2 dernières années. Elle s'annonce virulente cette saison. À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le sénateur de Vendée, candidat à la présidence du parti LR, Bruno Retailleau, retraite, sobriété énergétique, assurance chômage et Nicolas Sarkozy qui joue les troubles faits dans la campagne pour les LR. Les sujets ne manquent pas. L'interview est à suivre après le journal.
Europe 1. Journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y aura un enseignant devant chaque classe. Vous vous souvenez peut-être de cette promesse de Papendiaï avant la rentrée ? Eh bien, un mois plus tard, il manque au moins un prof dans 63% des établissements scolaires. La crise des vocations se fait sentir. Pour rendre la profession plus attractive, il y a un levier, le salaire. Les négociations entre syndicats enseignants et gouvernement se sont ouvertes hier et elles s'appuient sur un constat. Les profs français sont moins bien payés que leurs collègues des autres pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est ce que révèle un rapport publié hier, Louise Salé.
Oui, en France, les maîtres et les maîtresses avec 15 ans d'expérience gagnent 20% de moins environ que la moyenne des pays développés, soit 33 000 euros bruts par an. Et dans le secondaire, c'est près de 15% de moins. En Allemagne, par exemple, les enseignants gagnent deux fois plus, soit près de 65 000 euros en primaire. Mais revaloriser les salaires n'est pas l'unique solution pour doper l'attractivité du métier. Éric Charbonnier est analyste éducation à l'OCDE.
En Allemagne, on a la plus grande crise d'attractivité du métier jamais vue dans le pays. On s'est rendu compte en Allemagne que les enseignants se plaignaient d'avoir davantage de tâches administratives à faire, d'avoir une pression des parents de plus en plus forte. C'est une leçon à retenir pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Il faut aussi que le métier évolue pour qu'il devienne passionnant et stimulant.
En France, le salaire bas est lié à une autre organisation du travail, le temps du prof face aux élèves. Il est plus faible qu'au Royaume-Uni, qu'au Portugal ou qu'en Finlande, par exemple, où l'aide aux devoirs est plus importante, ce qui augmente le nombre d'heures dans l'établissement et la rémunération. Enfin, autre problématique qui distingue la France, la stagnation des salaires en milieu de carrière. Il faut 35 ans aux enseignants pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé, contre 26 ans en moyenne dans l'OCDE.
Louise Salé.
Une crise institutionnelle sans précédent, un contre-exemple de probité. Les syndicats de magistrats, littéralement indignés après le maintien d'Éric Dupond-Moretti à son poste de garde des Sceaux.
Oui, il a été renvoyé hier devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir usé de sa position pour régler ses comptes avec des magistrats. Les avocats du ministre de la Justice ont immédiatement formé un pourvoi en cassation.
Alors lui aussi conteste avoir commis le moindre délit. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, est également mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
Le parquet national financier lui reproche de ne pas avoir déclaré ses liens avec la famille Aponte, principal actionnaire de l'opérateur maritime MSC, et ce alors qu'il a pris part à des négociations avec l'entreprise au nom de l'État. Un nuage de plus dans le ciel de la Macronie. Arthur Delaborde, est-ce que cette nouvelle affaire embarrasse l'exécutif ?
Eh bien, officiellement, pas du tout. L'Élysée assure qu'Alexis Kohler ne démissionnera pas et qu'il garde la confiance du chef de l'État. Sa mise en examen n'est que la suite logique d'une affaire en cours depuis 2018, minimise un conseiller. Et jusqu'ici, cette procédure ne l'a pas empêché de travailler, ajoute-t-il. Autrement dit, pour l'exécutif, la mise en examen d'Alexis Kohler ne change rien. Le président ne compte absolument pas se séparer de son plus proche collaborateur, surnommé par certains le vice-président, tant il contrôle, gouverne et arbitre toutes les décisions de l'État. Au lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron n'avait d'ailleurs pas tenu compte des avertissements de certains de ses proches qui lui conseillaient de ne pas reconduire Alexis Kohler comme secrétaire général de l'Élysée pour ne pas que son pouvoir soit déstabilisé par d'éventuelles poursuites de la justice. Sur le plan politique, le président assume donc son choix jusqu'au bout de se comporter comme s'il n'y avait pas d'affaire Kohler. Cela démontre une certaine cohérence puisqu'il a toujours répété qu'il ne se laisserait pas dicter son agenda par la pression des juges et des médias. La contrepartie, c'est qu'il prend le risque de provoquer des dégâts dans l'opinion en alimentant le sentiment de défiance des Français envers la classe politique.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Voilà, quel risque politique pour le président de la République à travers ces deux affaires. Ce sera l'un de nos thèmes de discussion tout à l'heure dans le Club de la presse Europe 1 à 8h40. François Calfon et Eugénie Bastier seront avec nous ce matin. Pas de quoi perturber, quoi qu'il en soit, l'agenda du président de la République à ce stade. Ce soir, Emmanuel Macron reçoit des figures de la police française à l'Élysée pour une opération séduction.
Oui, les anciens grands flics, comme on les appelle, invités donc à la table du chef de l'État qui veut leur rendre hommage et évoquer avec eux la réforme de la police. Parmi eux, William Molinier, il y a des grands noms du métier comme Robert Broussard, Ange Mancini ou Frédéric Pechenard.
Oui, tous sont des anciens grands flics qui ont marqué à leur manière la maison police. D'abord le plus iconique d'entre eux, le commissaire Robert Broussard, tombeur du bandit Jacques Mestrine. Une demi-douzaine de ses pairs a été invité, parmi eux le préfet Ange Mancini, premier chef du RAID devenu coordonnateur national du renseignement, ou encore Frédéric Pechenard, ancien directeur général de la police nationale. À leur côté, Joe Kerry, passé par les stupes, l'anti-gang ou encore l'antiterrorisme, et Charles Pellegrini, ancien commissaire spécialiste du crime organisé. Objectif de l'Élysée, leur rendre hommage à l'heure où la police traverse une réforme institutionnelle avec une grogne inédite des enquêteurs de la police judiciaire qui dénonce un affaiblissement de la filière investigation. Ça fait un peu réunion d'anciens combattants, ironise un participant, mais c'est l'occasion pour le président, poursuit-il, de savoir ce qu'on pense vraiment de l'état de la police et de cette réforme, car, conclut-il, on est tous retirés des affaires policières et on n'attend strictement rien de lui.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Voilà, c'est sans doute l'un des articles les plus vendus l'actu du moment, les mouchoirs. Avec la baisse des températures, les grippes sont de retour et pas seulement.
Hein. Ouais, des schniff-schniff, des quintes de tout. Au bureau, dans le métro, personne n'y échappe évidemment. Entre le Covid, dont la 8e vague a démarré, la grippe, dont la saison commence, et puis les angines, les rhinopharyngites, les autorités sanitaires craignent des épidémies cet hiver. Fin septembre, le taux d'incidence des infections respiratoires avait doublé en l'espace de seulement 2 semaines. Yasmine Akatou, ça commence à se voir dans les cabinets médicaux.
Oui, alors pour l'instant, nous ne sommes pas encore au stade de l'épidémie, mais les virus de l'hiver ont fait leur apparition très tôt dans le cabinet du docteur Jérôme Marty. Il est président de l'Union française pour une médecine libre.
On a vu une accélération effectivement des pathologies de la sphère ORL. Ça a commencé doucement là, depuis une quinzaine de jours.
Certains patients commencent donc à s'informer pour se protéger contre la grippe.
Les patients âgés notamment commencent à poser des questions depuis 2-3 semaines pour savoir quand est-ce qu'il faut qu'ils se vaccinent, etc. Voilà.
Car les épidémies de grippe, rhinopharyngite et autres virus risquent d'être plus virulentes cette année. La faute à une immunité plus fragile, explique Jean-Paul Stahl, infectiologue.
L'ensemble de la population a été moins fréquemment en contact avec ces virus l'hiver précédent en raison des mesures sanitaires imposées par la Covid. Donc la population est moins immunisée contre ces virus. C'est un facteur de risque, effectivement, pour une épidémie plus importante.
L'application des gestes barrières peut limiter l'épidémie, rappelle Jean-Paul Stahl. La grippe tue entre 8 000 et 10 000 personnes chaque année.
Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
Allez, on se pince le nez, on se laisse couler. Bienvenue au championnat du monde d'apnée. Ils ont commencé hier en Turquie.
Et carton plein pour les Bleus en poids constant monopalme. C'est l'une des disciplines. Chez les femmes, Alice Modolo remporte le bronze. Côté masculin, Arnaud Gérald ramène l'or. De quoi booster encore plus une discipline qui a déjà le vent en poupe auprès du grand public, Axel May.
Oui, si le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, a fait connaître en 1988 la discipline dans l'Hexagone, le boom de la pratique de l'apnée est beaucoup plus récent, souligne Olivia Fricker, monitrice, membre de la Fédération française de plongée.
Les gens qui pratiquent en club, on est passé en moins de 10 ans d'à peu près, on pense, 1000 licenciés à plus de 20 000. Simple exemple dans mon petit club, là, en province, on est une soixantaine de pratiquants, on a refusé plus de 30 personnes à la rentrée.
Si les entraînements se font majoritairement en piscine, l'objectif est bien sûr de plonger en milieu naturel. Et pour le champion du monde, Arnaud Gérald, ce boom de la discipline s'explique parce qu'elle est dans l'air du temps.
Certains s'y retrouvent sur l'écologie, d'autres s'y retrouvent sur la partie développement personnel, d'autres s'y retrouvent sur la performance pure. Et voilà, je pense que c'est vraiment un sport qui va toucher de plus en plus de personnes.
Arnaud Gérald, auréolé de son nouveau titre de champion du monde d'apnée, ajoute que pour se faire plaisir, un masque et des palmes suffisent. Pas besoin, comme lui, de descendre à plus de 120 mètres.
Ah oui, combien de temps vous tenez dans votre bain, Fanny, en apnée ?
Pas très longtemps, à mon avis.
Il faut vous entraîner.
On va s'entraîner.
Merci beaucoup, Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Europe 1.
Votre invité, Sonia Mabrouk, est sénateur LR de Vendée et président du groupe LR au Sénat.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Dans une vidéo d'une quinzaine de minutes, Emmanuel Macron a appelé hier les Français à participer au débat du Conseil national de la refondation sur différents sujets, dont la sobriété énergétique. Que pensez-vous de la démocratie participative version Emmanuel Macron?
Je pense que c'est de la communication. On a eu déjà le grand débat. Qu'est-ce que cela donnait? On a eu des Ségur, on a eu des Grenelles. Qu'est-ce que cela donnait? Sinon, beaucoup d'argent public. On a eu aussi un certain nombre de conventions citoyennes. Qu'est-ce que cela donnait? On voit bien l'exercice de communication. Le président de la République apparaît en col roulé. Voyez, quand on n'a pas de solution, quand on a sabordé la filière nucléaire, eh bien, on en est réduit à communiquer. Voilà. C'est ce qu'il faut le savoir. Les Français auront peut-être cet hiver des coupures. Ils les devront peut-être un petit peu à l'Ukraine, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup à la stratégie d'Emmanuel Macron.
Pourtant, l'inflation, Bruno Retailleau, a atteint 5,6% sur un an, septembre, selon l'INSEE. Et sans le bouclier sur l'énergie, elle serait de plus de 8%. Toujours, selon l'INSEE, ce ne sont pas mes chiffres. Nous avons un des chiffres d'inflation les plus bas en Europe. C'est le double en Allemagne. Est-ce que vous donnez crédit au gouvernement au moins pour ce résultat ?
Mais je donne crédit à crédit, si vous voulez. Vous le dites très très bien. On est en train d'avoir un endettement astronomique. Bientôt, ce sera 3000 milliards, c'est-à-dire que la politique d'Emmanuel Macron se réduit à une politique de la dépense publique, des toutes petites réformes, souvent pas de réformes du tout. Mais pardonnez-moi, la question que vous me posez, et notamment qu'il a posée sur le CNR en matière de sobriété, elle renvoie directement à son inaction ou à des mauvaises décisions. Je veux rappeler simplement aux Français que nous vivons, au moment où je vous parle, sous l'empire d'une loi qui proclame la fermeture de 12 réacteurs nucléaires, alors que lui maintenant a fait un revirement et voudrait désormais en ouvrir.
Qui devrait être revu, hein, logiquement, normalement. Vous sortez un carton rouge, on l'entend, sur le budget. Hein, vous parlez d'un budget dépensier, Bruno Retailleau. Mais est-ce que ces dépenses, elles ne sont pas nécessaires et justifiées en cette période de crise, justement ?
Non, ces dépenses ne sont pas nécessaires et justifiées. Elles l'étaient, bien sûr, au moment du bouclier pour la crise Covid. Elles le sont aussi en partie. Mais la Cour des comptes l'a montré. Là, ça y est, le juge, l'arbitre a donné son jugement, notamment depuis... pour la crise Covid, il y a eu pratiquement les deux tiers de ces dépenses qui n'étaient pas liées à la crise Covid. Ça veut dire que Emmanuel Macron fait toujours de la dépense publique l'alpha et l'oméga de sa propre politique. Et on voit bien en France que la question, ce n'est pas la dépense publique. Enfin, ouvrons les yeux. On est le pays au monde qui avons le plus d'impôts et surtout la dépense publique la plus forte. Mais pour autant, l'hôpital, la santé est en train de s'écrouler, l'école qui s'écroule, la sécurité publique et la justice qui s'écroulent.
Donc si... où va l'argent ?
Mais
c'est ça,
où va l'argent ? Mais c'est tout simplement parce
ôtez-nous d'un doute. Vous, au pouvoir, vous n'auriez pas protégé les Français de la même manière en cette crise énergétique ?
Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que la politique, ça ne consiste pas à dépenser l'argent qu'on n'a pas pour faire ensuite sans doute la poche des Français. Ça consiste à avoir un cap, une boussole. Et malheureusement, Emmanuel Macron n'a rien prévu de tout cela. J'ai écrit un livre, voyez, il y a 18 mois. Le titre de ce livre, c'est « Aurons-nous encore cet hiver de la lumière en hiver ?» Eh bien, c'était bien avant l'Ukraine. J'avais prévu un certain nombre de ces genres de choses, puisqu'il a massacré encore une fois le fleuron français, notre filière nucléaire qui nous assurait une souveraineté énergétique, des coûts très bas pour notre réindustrialisation, coûts bas de l'énergie, et puis aussi pour les ménages français, des coûts aussi très très bas.
Vous dénoncez un président sans cap ce matin, Bruno Retailleau, et vous-même au sein des LR, en avez-vous un ? Par exemple sur le projet sur l'assurance chômage qui suscite un vif débat à l'Assemblée nationale avant son arrivée justement au Sénat. Au final, on imagine que vous ne pourrez que le soutenir, Bruno Retailleau. Même si vous estimez que ça ne va pas assez loin, ce serait logique que vous le souteniez.
Sonia Mabrouk, on n'est pas des girouettes. De quoi aurait l'air la droite si on ne soutenait pas ce qu'on a toujours soutenu ? Moi, pour moi, la politique, ce sont les convictions. Et je pense que la droite, et c'est tout le projet que je mets avec mes tripes et mon cœur dans la refondation d'une vraie droite. Le problème de la droite, justement, c'est de ne pas avoir été fidèle à ses propres convictions, de s'être excusé trop souvent d'être de droite, de s'être abandonné aux facilités et surtout aux lâchetés. Et du coup, les électeurs nous ont quittés. Non, quand on a des convictions, on s'y tient. C'est pas parce qu'Emmanuel Macron change d'avis que nous, on doit changer de conviction.
Donc, vous allez appliquer cette même méthode, ce que vous venez de dire sur les retraites.
Nous allons appliquer, bien sûr, puisqu'il n'y a pas cette quantité de travail en France et qu'on va s'appauvrir. Vous vous rendez compte, si on a toujours proclamé que pour nous, et d'ailleurs les grandes réformes des retraites, c'est la droite en 93, en 2003, 2004 et 2010. Et là, il faudrait faire la girouette. C'est pas ce qu'attendent les Français. On veut une réforme des retraites, nous. Pas parce qu'on veut punir les Français, mais au contraire, on veut préserver leurs droits. On veut préserver un système social qui est très avantageux, mais qui ne peut être financé que par du travail. Regardez, Emmanuel Macron, on a la preuve par neuf. Il a refusé de repousser l'âge de la retraite au-delà de 62 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour 8 millions de retraités, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Voilà, à cause de cette décision. Nous, on veut garantir des nouveaux droits, faire en sorte que les petites retraites soient augmentées, qu'on ait un droit de reversion.
Maintenant qu'il va mettre cela sur la table, vous allez dire banco ? C'est ce que vous avez toujours demandé.
Mais il n'y a pas de raison, là encore, qu'on fasse une girouette. Simplement, je me méfie avec Emmanuel Macron. Parce qu'il y a toujours une énorme distance entre les proclamations, les mots et les annonces et les faits. Donc on sera très vigilant. Une vraie réforme, c'est le recul de l'âge. C'est la fin des régimes spéciaux, bien sûr. Et c'est un certain nombre de droits pour préserver, par exemple, la pénibilité, les carrières longues ou des nouveaux droits pour augmenter les toutes petites retraites. Je vis dans un milieu rural. J'étais à une inauguration samedi. J'ai vu un agriculteur, il a commencé à travailler à 15 ans, il est parti à 62 ans. Vous savez combien il touche ? 800 euros. C'est un scandale. Moi, je ne veux pas de ce scandale-là.
Vous parlez justement du milieu rural, des zones rurales. Une question sur l'immigration. Il y a eu cette proposition d'Emmanuel Macron d'accueillir des migrants, notamment justement aux zones rurales. Pourquoi pas chez vous, Bruno Retailleau ? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
Ah bah, c'est une très mauvaise idée.
Pourquoi ?
Parce que tout simplement, on voit bien que faute de maîtriser l'immigration, il veut la répartir et la répartir sur tous les territoires ruraux.
Quel risque y aurait-il à ça ?
Mais il y a des risques, regardez, sur Nantes. J'étais visiter le commissariat de Nantes vendredi. Vous savez qu'il y a une bouffée d'ultra-violence. Je me souviens de la municipalité qui affichait en 2015 « Bienvenue aux réfugiés ». Eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants. Eh bien, vous savez que cette ultra-violence est directement lié à ce phénomène migratoire qui n'est pas maîtrisé.
Vous avez entendu ce que dit la maire de Nantes, Johanna Roland, que ceux qui font le lien entre immigration et délinquance, c'est stigmatiser les migrants.
Moi, je lutte contre la loi du silence. La loi du silence, l'omerta, je le lui dis, je la connais bien d'ailleurs, ça n'est pas la réponse. Ce que m'ont dit les policiers, et j'invite Madame Johanna Roland à poser les mêmes questions, c'est que les mises en cause à Nantes, dans le centre-ville de Nantes, c'est entre 60 et 70% des mises en cause qui sont liées à des immigrés. Vous vous rendez compte ? Il faut ouvrir les yeux.
Comment vous avez ce chiffre, Bruno Retailleau ?
De la police. De la police.
Et, voilà. Et vous pensez que la mère ne l'a pas ou ne veut pas le voir ?
Mais bien sûr qu'elle l'a. Mais bien sûr qu'elle l'a. Mais vous avez à Nantes une culture du laxisme. Voilà. Vous savez qu'à Nantes, les préfets ne demandent pas les parcours des manifestations. Depuis 1953, il y a une tradition révolutionnaire à Nantes qui fait que, alors que partout en France, pour garantir la sécurité des manifestants, pour garantir aussi la sécurité publique, on demande, vous devez déposer dans les préfectures les trajets des manifestations. Eh bien non, à Nantes, il y a une tradition gauchiste, révolutionnaire, c'est connu pour cela. Et voilà, on en arrive. Voilà. C'est cette culture du gauchisme qui amène cette ultra-violence qui est liée à un laxisme judiciaire. Un laxisme judiciaire. Moi, M. Dupond-Moretti, je m'en fiche de sa mise en examen.
Vous en fichez ?
Ben, ouais, je vais vous dire. Ce que veulent les Français, c'est qu'ils changent de politique, qu'il y ait une révolution pénale. Il a fait le 20 septembre dernier. Le 20 septembre, c'est tout près, il y a quelques jours, une circulaire à ses parquetiers, au procureur de la République, en disant, même pour les multirécidivistes, même pour ceux qui récidivent, surtout, évitons la prison et privilégiez les TIG.
Pourquoi ils disent
les
ça, Bruno Retailleau ?
Les travaux d'intérêt général.
Il n'y a pas assez de place de prison.
Bah oui, parce qu'ils n'en ont pas construit.
Mais vous non plus, j'allais dire.
Plus que, mais je vais vous dire, la droite, c'est pas à moi de... Parce que je pense que notre passé est aussi un passé. On pourra en parler. Et moi, ce que je reproche à ma propre famille politique, hein, c'est souvent de s'être excusé. C'est tous ces abandons et ces lâchetés dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je veux dire que ce n'est pas la droite qui va rattraper tel ou tel. Je veux une autre droite. Je veux refonder, moi, une vraie droite, justement. C'est tout le sens de ma candidature.
Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que vous attendez des résultats. Mais sur les mises en examen, je précise, hein, l'exécutif qui connaît une tempête sur le plan judiciaire avec deux cas de nature très différente, avec Éric Dupond-Moretti d'un côté et puis le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Tous deux sont confirmés à leur fonction. Emmanuel Macron donc a raison de ne pas céder pour vous.
Ah, pas du tout, j'ai pas dit ça. Ah. Jupiter est devenu Tartuffe. Parce que je me souviens très bien, moi, la première loi qui nous est fait voter en 2017, il venait tout juste d'être élu, était la loi de moralisation de la vie publique. Elle était soutenue par un garde des Sceaux qui s'appelait à l'époque M. François Bayrou. Donc, Tartuffe, c'est deux poids, deux mesures. On nous clame cette République exemplaire et ensuite, on réserve une mesure différente. Souvenez-vous de tous ceux qui ont dû démissionner, d'ailleurs M. Bayrou a dû démissionner. Monsieur Ferrand, à l'époque, a dû démissionner.
Donc c'est à géométrie variable.
Mais bien sûr que c'est à géométrie variable. C'est terrible, cette tartufferie, parce que ces gens-là passent leur temps à dire d'un côté blanc et à faire de l'autre côté noir. Ils abaissent la politique, en réalité. Le crédit de la parole publique et du comportement public.
Alors c'est très important. Parlons de la parole politique. Vous êtes un candidat ce matin à ce micro, Bruno Retailleau, candidat à la présidence du parti LR face à Éric Ciotti et Aurélien Pradier. Nicolas Sarkozy serait prêt, je le mets au conditionnel, serait prêt à quitter les Républicains si vous êtes élu à la tête du parti. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à nuire à votre campagne ?
Non, l'inverse. Je vais vous faire une confidence. On est entre nous là, Sonia Macron.
Je l'espère pas, mais allez-y.
Écoutez, si je suis élu et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, qu'il le fasse. Je ne le retiendrai pas. Et même, je le comprends. Je comprends que tous ceux qui ont mis beaucoup d'énergie à la réélection de M. Macron ne souhaitent pas me voir accéder à la présidence de LR parce qu'ils savent qu'avec moi, je ne transigerai jamais là-dessus. Jamais. Je veux une droite qui soit vraiment de droite, je le disais, pas une droite à mi-temps, pas une moitié de droite, la droite complète. Voilà ce que je dis de la façon la plus calme et sereine.
Partez, c'est pas, on ne vous retient pas. Non, attendez, on ne vous retient pas, monsieur l'ancien président.
Écoutez, si vraiment, monsieur le président de la République, vous avez dit ce que j'ai lu, eh bien, si je suis élu, je ne vous retiendrai pas.
Mais pourquoi il dit cela, selon vous, Bruno Retailleau? Pourquoi il dit cela?
Peut-être parce que j'étais un des seuls parlementaires à l'époque à ne pas vouloir voter le traité de Lisbonne. Ce traité qui avait infirmé ce que le peuple français avait pourtant décidé en refusant de voter le traité constitutionnel. Je pense que ça fait partie des blessures à notre démocratie, voyez. Et j'avais refusé de voter à l'époque le traité de Lisbonne.
Mais si l'on en croit son entourage, il pense aussi que vous seriez le représentant d'une droite rabougrie, refermée sur elle-même, restes d'une droite.
C'est l'inverse. Je pense que je lutte. Pourquoi est-ce qu'on a connu cette succession d'échecs? Je vais vous donner quelques exemples justement de ces reculs, de ces abandons. Certes, on a fait la défiscalisation des 35 heures. Mais on ne les a pas abandonnés, les 35 heures. Certes, on a fait des peines planchers, mais on a abandonné la double peine. Certes, on a réduit un peu la fonction publique, mais on a fait les ARS qui ont bureaucratisé la santé.
Là, vous êtes en train de me faire l'inventaire, c'est
ça? C'est un inventaire, et moi, je suis totalement
qui
libre.
Qui n'a pas été fait, d'ailleurs,
vis-à-vis,
par la droite.
Exactement, c'est tout le problème.
C'est peut-être ça, le problème.
Et il faudra le faire, pour dire aux Français qu'on a vraiment changé.
Y compris l'inventaire de Nicolas Sarkozy. Alors.
Mais bien sûr, quand je dis que le passé est aussi impassif, je renvoie aussi à cela. Je ne dis pas que tout était mauvais. Je suis prêt à reconnaître un certain nombre de choses positives. Mais il faut qu'on dise aux Français, écoutez, on tire les leçons de nos échecs et on n'est pas exactement la même droite.
L'un des sujets sur lesquels vous êtes engagé depuis très longtemps, Bruno Retailleau, c'est la lutte contre l'islamisme. Cette lutte se mène au prix du sang, notamment en Iran, avec une révolte contre le régime, avec évidemment des femmes dans les manifestations et des hommes dans ce combat. C'est important de le préciser. En France, la manifestation en soutien à cette révolte a accueilli avec des huées Sandrine Rousseau, de quoi c'est le révélateur selon vous?
Mais c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour elle. On ne peut pas défendre le port du voile en France et vouloir aussi, et prétendre aussi, vouloir défendre les femmes qui veulent l'enlever en Iran. Ce n'est pas possible. Entre l'islamo-gauchisme et le féminisme, il faut choisir. Et Mme Sandrine Rousseau, comme tous ses amis, la plupart de ses amis, elles ont choisi l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire le port du burkini dans les piscines à Grenoble ou encore les marches contre l'islamophobie avec les amis islamistes de M. Mélenchon. Voilà ce que je dis. Et aujourd'hui, il y a bien sûr, on est attaqué d'une façon violente. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'acte de terrorisme grave. Il se pourrait qu'il y en ait à l'avenir, je ne le sais pas. Donc il y a une réponse sécuritaire, judiciaire, policière, mais il y a une réponse culturelle. C'est pour ça que je pense qu'il faut porter, il faut que la politique porte un projet de civilisation. Et le combat est culturel, et le voile, c'est pas un bout de tissu, c'est pas le symbole de la liberté comme une publicité de l'Europe le proclamait il y a très peu de temps. J'ai vu pour un programme Erasmus qui consiste à faire la promotion d'un programme international pour des étudiants, c'était une jeune femme avec un voile. Non, la liberté n'est pas dans le hijab, c'est la soumission, c'est vraiment l'infériorisation des femmes.
Exceptionnellement, Bruno Retailleau, je voudrais terminer l'interview par une chanson. Ce n'est pas n'importe quelle chanson, et celle qui la chante est une Iranienne qui porte comme tant d'autres cette contestation avec un courage inouï contre le régime. On écoute.
تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم خیابونه خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای
Je crois que tout est dit. Merci Bruno Retailleau.
Tout est dit comme la larme qui coule de vos yeux.
Bonne journée.
Sonia Mabrouk.
Bonne journée à vous.
Vous êtes très émue Sonia, nous aussi. C'est le chant qui devient le symbole de cette révolte en Iran, qui n'est pas qu'une révolte de femmes. De plus en plus, on en reparlera en longueur de ce qui se passe en Iran, car les événements sont sans doute très importants. Je rappelle que la révolution qui fait tomber le Shah d'Iran en 79, elle commence 2 ans plus tôt. Peut-être que c'est à l'aube de ça que nous sommes actuellement. Merci d'être venu nous voir Bruno Retailleau. Dans un instant, mangez vos morts. Les mots de Daniel Obono prononcés hier matin sur Twitter. Est-ce qu'une députée peut s'exprimer de la sorte? On en parlera dans le Club de la Presse à 8h40. Juste après, Yann Moix, éthique de l'arme atomique avec lui ce matin.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Et 8h32, le journal permanent, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamarre.
Après Strasbourg, Lille, Bordeaux et Marseille, Paris tourne à son tour le dos à la Coupe du Monde de football au Qatar. La capitale boycottera la retransmission du mondial qui commence dans un mois et demi. Il n'y aura ni écran géant, ni fan zone. Washington promet une réponse robuste au tir de missiles balistiques nord-coréens. Le conseiller américain à la sécurité s'est entretenu avec ses homologues sud-coréens et japonais. Le missile a survolé le Japon, provoquant la mise en alerte du système de défense et l'évacuation des habitants du nord et du nord-est de l'archipel. Le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée mis en examen. Le secrétaire général Alexis Kohler est soupçonné de conflit d'intérêts en raison de ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Malgré les critiques de l'opposition, il reste à son poste, tout comme Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice vient de former un pourvoi en cassation, ce qui suspend la tenue de son procès devant la Cour de justice de la République. Poursuite de l'examen de loi du projet de réforme de l'assurance chômage à l'Assemblée, selon Les Échos, entre 25 et 42% des salariés qui pourraient prétendre à une indemnisation n'en font pas la demande. Enfin, le football, mission rachat et victoire impérative ce soir pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. L'OM, qui reste sur 2 défaites consécutives dans la compétition, reçoit le Sporting Portugal à 18h45, rencontre qui se déroulera à huis clos.
Merci Christophe Lamarre. Le temps, toute ressemblance avec l'été serait totalement fortuite. Le soleil arrive.
Ça y est, le soleil arrive, le jour se lève. On a moins de brouillard qu'hier. En fait, en quantité, on en avait autant, mais il se lève beaucoup plus vite qu'hier. Donc le soleil est déjà bien présent à 8h30. Alors on a encore quelques brouillards qui auront du mal à se dissiper du côté du Val-de-Saône, en Meurthe-et-Moselle. Et puis au bord de la Méditerranée, cet après-midi, on a des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon et sur les côtes des Bouches-du-Rhône. On a du soleil partout cet après-midi, sauf sur la Bretagne, le Cotentin, les côtes normandes et les Hauts-de-France, où là c'est un petit peu plus nuageux. Côté température, bah, grâce au soleil, ça remonte un petit peu et on va gagner quelques degrés. 18 à Lorient et à Cherbourg cet après-midi, 20 degrés à Nancy, Lille et Strasbourg, 21 pour Paris, on gagne 3 degrés par rapport à hier, hein. 22 à Aurillac et Saint-Étienne, 24 pour Marseille, 26 à Ajaccio et 28 la maximale à Carcassonne.
Merci beaucoup Anis, à 8h34.
7h, 9h,
Europe Matin.
Les signatures Europe 1, comme tous les jours, le mardi, Yann Moix est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Dimitri.
J'accueille également Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour Yann et bonjour à tous.
Du journal
bonjour.
L'Opinion, on ira faire un petit tour au Mont-Saint-Michel. On parlera mytiliculture, les moules, tout à l'heure avec vous dans 3 minutes. Mais d'abord Yann Moix, vous souhaitez nous parler ce matin de Vladimir Poutine. Dès qu'il en a l'occasion, le président russe menace d'avoir recours à l'arme nucléaire ces derniers temps.
Exact. Mais je crois qu'on a dépassé le stade, Dimitri, de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, ça repose sur le fait que l'arme atomique est possible. Alors possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une équivalence entre avoir la puissance et être capable de l'utiliser. Donc le possible de la dissuasion, ça repose sur le non-dit, sur l'évidence implicite que posséder la puissance nucléaire suppose qu'on la retienne. Mmh. Autrement dit, c'est justement parce qu'on peut la faire qu'on ne la fait pas, la guerre nucléaire.
Et nous n'en sommes plus là. Est-ce qu'on serait passé de la dissuasion nucléaire à la menace nucléaire?
Vous n'avez pas tort. Regardons de plus près. Qu'est-ce que c'est que la menace nucléaire? La menace nucléaire, ça repose sur le fait que le recours à l'arme atomique soit non plus possible, mais potentiel. C'est-à-dire que cette fois, le fait même d'avoir la puissance entraîne qu'on soit capable de s'en servir. C'est parce que je peux le faire que je suis susceptible de le faire.
Ouais, Poutine en serait donc là, d'après vous, où est-ce qu'il a, d'après vous, peut-être aussi franchi, y compris ce stade de la menace?
Alors je crois qu'il a franchi le stade de la menace nucléaire. Il se situe, je dirais, dans le matamorisme nucléaire. C'est-à-dire que le matamorisme nucléaire, on n'est plus dans le possible, ni dans le potentiel, mais on est dans le probable. C'est donc ce qui est à craindre, ce qui est à prévoir, le probable. Ce n'est pas inéluctable, mais on rentre dans l'univers du plausible. Le métamorisme nucléaire, Dimitri, ça consiste, si vous voulez, à se vanter d'être capable d'utiliser l'arme atomique. Bon, avec Poutine, on en est là.
Ouais. On n'est pas obligé de vous suivre. On peut aussi considérer qu'on est encore dans le registre de la dissuasion, avec une crise importante, certes, mais toujours dans ce registre-là, pas au-delà.
C'est vrai. D'ailleurs, la dissuasion est un modèle qui a fait ses preuves. Hein, mais je trouve qu'elle comporte des vices de forme.
Alors, à quoi vous pensez ?
D'abord, ce qui est un peu gênant avec la dissuasion nucléaire, enfin gênant, je joue sur les mots, hein, c'est qu'elle contredit le besoin viscéral qu'a l'homme de faire la guerre. Donc la vraie question, c'est la seule question d'ailleurs, Dimitri, c'est combien de temps tiendra-t-on encore sans guerre nucléaire ? Alors, c'est ça qu'il faut se poser comme question.
Oui, en admettant que vous ayez raison, ce qui serait d'ailleurs totalement effrayant, est-ce que l'homme peut se livrer à d'autres guerres que la guerre nucléaire? Hélas, il le prouve tous les jours.
Oui, il peut, mais écoutez, il y a quand même un truc qui est très étrange. C'est-à-dire que l'arme nucléaire est la seule arme qui a été inventée pour ne pas faire la guerre. Et c'est quand même un miracle qu'on n'ait jamais utilisé cette arme. J'ai l'impression, si vous voulez, que depuis 1962, avec la crise des missiles de Cuba, la réalité s'impatiente, s'agace, trépigne. La technologie elle-même, si vous voulez, on a l'impression qu'elle attend un prétexte, cette technologie toute prête, merveilleuse, elle attend un prétexte qu'on lui ouvre la cage. Elle a envie d'éclore, de se réaliser. En fait, la technologie, par essence et par nature, ne supporte pas la rétention. Elle ne va pas tenir des siècles sans démontrer sa puissance. Donc il faudra tôt ou tard sortir de ses gonds, sortir de sa cage. On ne peut pas embastiller la technologie. La technologie nucléaire, comme toutes les technologies, a trop longtemps été assignée à résidence pour ne pas venir montrer ses pouvoirs.
Il y a quand même une éthique de l'arme nucléaire, Yann Moix, il faut dire, car on connaît les conséquences potentielles. Les experts, ils vous vont dire, l'arme nucléaire permet justement de contenir les conflits à une échelle justement inférieure à ce seuil nucléaire. On garde des conflits, mais locaux, on évite une généralisation des conflits de l'ampleur d'une guerre mondiale, par exemple.
Vous avez raison, mais vous savez quel est le propre de l'arme nucléaire? C'est qu'on ne l'utilise jamais pour l'attaque, mais pour la défense. Or, le tour de passe-passe de Poutine, très malin, c'est qu'il se met dans une situation où il va être attaqué et non plus attaquant. En faisant ses quatre Anschluss, il va considérer maintenant que si on réclame le retour de ses territoires, il sera l'agressé. Donc, il pourra retomber dans la logique de la bombe nucléaire qui est « Ah, on m'attaque, je me défends ». Et c'est ça qui est très très dangereux dans ce métamorisme nucléaire. Il se mue en victime, si vous voulez. Il va donc riposter, quoi qu'il arrive, maintenant il va se mettre en situation d'être un riposteur.
Oui. Il y a un autre problème avec l'arme atomique, Yann, c'est qu'elle crée une égalité militaire presque parfaite. C'est un absolu, l'arme nucléaire.
Oui, c'est ça, c'est un absolu. C'est-à-dire que même celui, le grand gagnant, finalement, c'est celui qui n'a plus rien à perdre. Donc c'est celui qui attaque en premier, parce qu'il connaît toujours déjà les représailles. Donc si vous voulez, Poutine, si jamais il utilisait l'arme nucléaire, le premier, il aurait gagné la guerre. Alors le mélange explosif, c'est ce métamorisme, plus la victimisation, plus la déloyauté. Parce que utiliser l'arme nucléaire en premier, c'est déloyal, ça ne se fait pas. David est égal à Goliath, donc si on utilise un absolu en premier, c'est une forme, si vous voulez, de faiblesse. Car celui qui installe cette situation n'est pas le plus fort et le plus courageux, c'est le plus faible et le plus lâche. On pourrait presque dire que le paradoxe de l'arme nucléaire, c'est que la raison du plus faible est toujours la meilleure. Mais là où Poutine, Dimitri, serait davantage que faible, stupide, c'est de vouloir rentrer dans l'histoire alors qu'il n'y aurait plus personne pour l'écrire.
Signature, Yann Moix, réflexion sur l'arme nucléaire ce matin. Demain, c'est Gaspard Proust qui sera à votre place, Yann.
J'aime beaucoup Gaspard Proust.
Enfin, je crois que c'est réciproque. Merci beaucoup, Yann. 8h40, Emmanuel Ducrot, votre voyage en absurdie ce matin, vous nous embarquez dans la baie du Mont-Saint-Michel avec une histoire de petite moule. Alors ça a l'air charmant, maritime comme ça, mais c'est une histoire qui sent mauvais.
Oui, j'ai vraiment des scrupules à la raconter à nos pauvres auditeurs qui terminent à peine leur petit déjeuner, mais vous me connaissez, l'information avant tout, c'est le quotidien 20 minutes qui raconte comment, à cause d'un imbroglio administratif, une centaine de tonnes de moule est en train de pourrir en plein air.
Une centaine de tonnes?
Une centaine de tonnes.
Oui, ça fait une belle quantité, oui.
Ça se passe donc dans la baie du Mont-Saint-Michel à Viviers-sur-Mer, charmant port de pêche à la moule. Ici sont installés de nombreux mytiliculteurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils élèvent des moules de bouchot d'origine protégée avec un cahier des charges très strictes. On ne vend pas, par exemple, de petites moules de moins de 4 cm. Ces moules hors gabarit représentent 10 à 15% des collectes, un millier de tonnes par an.
Et ce sont ces petites moules qui sont en train de créer de gros problèmes, Emmanuel ?
Eh oui, c'est là que ça commence à cocoter sévèrement dans ma chronique. Jusqu'ici, les petites moules étaient rejetées à la mer dans des endroits bien délimités de la baie, une pratique qui est très encadrée, qui est très ancienne, mais une pratique qui ne plaît pas à deux associations environnementales de la région, dont l'une défend les paysages. Elles essayent depuis des années d'obtenir la fin du rejet des moules, car la zone est classée Natura 2000.
Et ces associations ont-elles réussi à faire interdire la pratique, hein, ces déversages,
hein ? Alors, les producteurs ont essayé de trouver des solutions, comme par exemple de diversifier les endroits où rejeter les moules à la mer. Les associations n'ont rien voulu entendre. Elles ont saisi la justice administrative à Rennes. Et le tribunal a estimé le 21 septembre que l'arrêté préfectoral qui autorisait depuis des années le rejet des moules n'était pas conforme à la loi et il l'a abrogé.
Et donc ?
Ben rien. La suite, ce n'est pas le problème du tribunal administratif. Il se contente de juger un acte administratif et rien de plus. La conséquence, c'est qu'on ne sait plus quoi faire des petites moules. Une impasse. Les mytiliculteurs sont en pleine saison. Elles s'entassent sur le port de Viviers-sur-Mer et c'est infectes. Elles sont en train de fermenter au risque de contaminer les eaux tout autour. Les pêcheurs sont écœurés. Ils dénoncent une aberration écologique.
Bon, il va bien falloir trouver une solution, faire quelque chose là.
Ah oui, la préfecture a demandé qu'on évacue les coquillages afin d'éviter que la situation empire. Vous vous doutez bien que c'est une pêche aux moules à laquelle personne n'a envie d'aller. La maire de la commune se désole. La seule alternative qu'on a proposée aux pêcheurs, dit-elle, c'est d'emporter les moules par camion plus loin en Normandie pour les enfouir. Ben voyons, voilà qui est très vertueux. Bilan carbone énorme pour une utilité nulle.
Bon, moralité de cette histoire odorante.
Eh bien, pour éviter cet immonde gâchis, il aurait peut-être suffi d'un peu moins d'intransigeance et d'un peu plus de jugeote de la part des organisations environnementales qui sont montées au créneau. On peut par exemple envisager de transformer les petites moules en préparation culinaire. C'est ce qui finira par se produire d'ailleurs. Mais ça nécessite un peu de temps et d'investissement pour les pêcheurs et pour la filière. Alors, comme je ne sais pas comment conclure cette chronique, je vais le faire comme on le fait à chaque fois quand on ne sait pas comment conclure. Je vais citer Pierre Desproges et le paraphraser pour ce qu'il disait du romantisme fiévreux. Il en est de l'écologisme fiévreux comme de la moule pas fraîche. Quand on en abuse, ça fait mal au cœur.
Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Yann
Moix. Merci Dimitri.
Bonne journée à tous les deux. À suivre le club de la presse européen. François Calfon, Eugénie Bastier. Est-ce qu'une députée peut dire « mangez vos morts » Ce sera le point de départ de notre conversation. A tout de suite.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
C'est un tweet fort de boutade, de salutation du matin, qui n'appellerait pas davantage de commentaires. Voilà ce que disait hier soir à la télévision la députée La France Insoumise de Paris, Danielle Obono, à propos de son tweet posté le matin même, que je vous lis présentement. « Bonjour à toutes et tous, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression, cela, mangez vos morts. » Bon, ça peut surprendre ces mots-là venant d'une élue de la nation. Est-ce que c'était qu'un petit tweet de salutation du matin ou y avait-il un peu plus que cela ? Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie.
Bonjour Dimitri.
Vous êtes essayiste journaliste au Figaro Vox. François Calfon également, éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour François.
Bonjour.
Mangez vos morts François, ça se dit pas quand on est député franchement.
Ah mais moi j'ai trouvé ça...
Oui, ça vous a fait rigoler ou...
parce que, non parce qu'il y a, comment dire, toute la construction en abîme de ce que ça signifie, mais oui. J'ai trouvé ça extrêmement vulgaire, et quelque part, dire ça c'est être à court d'arguments. Et d'une certaine manière, dans le match entre Elisabeth Badinter d'un côté et Madame Rousseau, Madame Obono est solidaire de l'autre, c'est 3-0. Et quelque part on est... on arrive au bout des contradictions du néo-féminisme. Alors, tout de suite, j'imagine tous les tweeters se lever ce matin pour dire à quel point je suis un représentant du patriarcat. J'entends M. Bayou ce matin dénoncer le néo-maccartisme, c'est son terme dans une interview ce matin, d'une certaine police des mœurs. Alors, police des mœurs, il y a manifestement...
Il a choisi ces mots, Julien Bayou, vous pensez
Le problème, c'est que quand est-ce qu'on doit, comme je cite l'enquête de Libération, comme les louves alpha, n'est-ce pas, telles qu'elles se nomment, c'est pas moi qui le nomme ainsi, des vers, chasser, traquer les compagnes de M. Bayou pour vérifier au centimètre près si celui-ci aurait été irrespectueux. Voilà. Je crois que c'est une police des mœurs. Alors, et que le néo-féminisme a abouti d'une certaine manière à une néo-ligue de vertu sans droit à la défense.
François,
et ça pose un problème pour des militants des droits de l'homme, des militants de la gauche qui ont toujours été très attachés au principe de justice.
On va clarifier quand même, parce que pour celui qui débarque un petit peu, qui n'écoute pas trop les infos et qui entend ce gloubi-boulga d'affaires qui secoue la gauche en ce moment...
Excusez-moi, je ne fais que citer la presse, c'est pas vous, gloubi-boulga.
Non, non, mais je dis parce qu'il y a plein d'affaires en ce moment, et en l'occurrence, le tweet de Daniel Obono que je lisais tout à l'heure, « Mangez vos morts », cette conclusion donc, faisait suite aux huées lors de la prise de parole de Sandrine Rousseau ce dimanche à l'occasion d'un rassemblement de soutien aux femmes iraniennes. Et certaines des manifestantes s'indignaient de voir Sandrine Rousseau dans ce cortège, parce que Sandrine Rousseau, elle fait partie d'une mouvance de gauche qui, en d'autres occasions, vont vous dire que le voile, c'est le symbole de la liberté religieuse, ce voile que les femmes iraniennes, présentement, sont en train de combattre, Jenny Bastier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire, d'après vous ?
Moi, je pense qu'il y a deux choses. Nous sommes 5 ans après MeToo, et ce qu'on voit apparaître au grand jour, ce sont des divisions profondes à l'intérieur du féminisme. Ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans cette manifestation ce week-end, c'est l'explosion de l'intersectionnalité. Vous savez, c'est ce paradigme qui postule finalement la convergence des luttes entre d'un côté les LGBT, de l'autre les femmes et les minorités, notamment les musulmans qui seraient opprimés par l'Occident. On voit bien que ce paradigme ne tient pas, puisque sur la question, par exemple, entre la convergence LGBT-femmes explose au sujet de la question des trans, et la convergence entre femmes et minorités, notamment musulmanes, explose sur la question du voile, puisque le voile et certaines féministes, néo-féministes, défendent le port du voile en France au nom justement de leur empathie envers les minorités musulmanes opprimées, alors qu'elles ne voient pas elles ne voient plus en tout cas que cet objet est un objet d'oppression. Et la deuxième chose, à mon avis, c'est le mensonge du néo-féminisme qui explose. Ce mensonge, c'est quoi ? Il consiste à dire qu'il ne s'est rien passé en 50 ans, finalement, nous vivons sous un patriarcat toujours aussi puissant. Et finalement, elles font de Julien Bayou et de l'Ayatollah Khomeini les acteurs d'un même système de domination. Ce qui, à mon avis, est un mensonge absolu, puisque nous avons en France et en Occident eu la révolution féministe. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Et comparer finalement ce qui se passe en Iran avec ce qui se passe en France et dire finalement que les femmes françaises subissent le joug du patriarcat comme les femmes iraniennes, c'est un mensonge. Oui. Et c'est contre ce mensonge-là finalement qu'on voit le néo-féminisme exploser.
Oui, c'est bien,
Je crois que c'est ça qu'on assiste à ça 5 ans après MeToo. Le féminisme explose.
C'est bien dit, hein, c'est bien vu ce que dit Eugénie, de dire qu'il y aurait une sorte de continuum de l'Ayatollah Khomeini jusqu'à Julien Bayou. Vous êtes membre du bureau national du PS. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'on voit que tous ces débats-là qui secouent la gauche, François, en tant qu'homme de gauche, j'aimerais bien avoir votre regard. Est-ce que c'est éphémère, c'est un feu de paille ces affaires-là ?
C'est pas un feu de paille.
Ou bien vous pensez que c'est révélateur d'une culture politique ?
C'est révélateur plus que ça. Moi, je dis que le substrat à cette évolution politique est un substrat sociétal qui nous provient des États-Unis, qui est aussi une évolution générationnelle, où les questions d'universalisme ne sont pas perçues. Et là, vous pouvez avoir des enfants dans des familles de gauche, de droite, de culture chrétienne ou laïque. Ils ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas, c'est un échec collectif de l'éducation, finalement, cette notion d'universalisme et cette notion de faire société. C'est-à-dire que moi, individu, ma revendication individuelle, alors changer de genre, avoir des droits supérieurs aux autres... Tout ça, finalement, est bien supérieur à un creuset commun. Et je crois qu'à gauche, on a encore eu le débat hier dans une réunion interne, mais on l'aura au moment du congrès des socialistes, qui sont encore une force de gauche très attachée à l'universalisme. Eh bien, il y a comme ça ces percées, de revendications catégorielles. Je voudrais dire une chose, il y a une raison.
Devenez-vous minoritaire, ceux qui pensent comme vous, François, ce matin ?
Je ne crois pas, je crois qu'il y a un grand silence qui s'est installé. Et je vais vous dire pourquoi ce silence s'est installé, parce que c'est l'homme de gauche, c'est le militant que vous interrogez ce matin. C'est que quand vous n'avez plus, finalement, d'idéal, quand vous n'avez plus de grand lendemain à proposer aux gens, alors vous saucissonnez, le terme est un petit peu, trivial, mais vos parts
vous
de marché... Vous segmentez, voilà, ça c'est un terme beaucoup plus sondagier, beaucoup plus politiquement correct, c'est ça. Vos parts de marché à tel et tel lobby. Et quand vous segmentez vos parts de marché, alors il n'y a plus de creuset commun.
Moi je crois pas que ce soit ça, mais...
Bon, après on peut... mais moi, je vais vous dire, ma hantise, la façon dont j'étais heurté, peut-être que je suis un vieux, hein, c'est même certainement la réalité, de voir agresser Elisabeth Badinter, comme quelque part elle-même une représentante du patriarcat, alors là, les bras m'en tombent.
Pardon, mais moi, je pense qu'il y a une logique aussi propre à la dynamique féministe et qui est de, finalement, de substituer à la lutte des classes la lutte des sexes. Et finalement, la révolution dégénère en terreur, comme bien souvent, toutes les révolutions dégénèrent bien souvent en terreur. Et je crois que cette radicalité, elle est inscrite au cœur du féminisme. Et aujourd'hui, elle échappe même à ses propres concepteurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'emballement.
Donc, c'est abusif de dire la gauche, alors que vous pensez que je
crois beaucoup au paradoxe de Tocqueville qui dit finalement, plus une société est égalitaire, plus la moindre inégalité blesse l'œil. Et finalement, on veut supprimer tout ce qui dépasse, l'inégalité devient insupportable. Et je crois qu'on est dans cette phase-là. En fait, la société française n'a jamais été aussi égalitaire entre les hommes et les femmes, en réalité, et même peut-être d'ailleurs en faveur des femmes, puisque les femmes ont énormément de pouvoir, elles font les études les plus longues, et du coup, la moindre inégalité, la moindre différence entre les sexes devient insupportable. Et il y a cette logique de radicalité qui s'installe, qui est, à mon avis, une...
Là où je ne vous suis pas, quand même,
propre à l'idéologie.
Vous diriez très simplement que finalement, le programme féministe est réalisé. Pour résumer votre propos, je crois que les statistiques sur l'égalité salariale, sur un certain nombre de domiciles, vous vivez dans le monde médiatique où effectivement, il y a des tas de domaines professionnels dans lesquels des femmes sont moquées en raison de leur physique, ont des carrières moins longues. Vous savez, il y a des tas de domaines, notamment dans l'industrie.
L'espérance de vie des hommes est inférieure de, je crois, 5 ou 6 ans à celle des femmes. Chômage que les femmes. Les femmes font des études plus longues, sont plus diplômées. Donc les courbes vont croiser.
Moi, je rappelle quelques inégalités.
Et aujourd'hui, les inégalités salariales, elles sont résiduelles, elles sont dues essentiellement à la maternité. Soit vous supprimez la maternité, soit vous la gardez.
C'est magnifique. Monsieur défend ses dames, madame défend ses messieurs. Je me demande un instant, leur tourne. J'aimerais qu'on ait un mot quand même de cette double affaire Kohler, Éric Dupond-Moretti. On change totalement de registre, mais c'est quand même intéressant.
Très intéressant.
Ce qui se passe, donc journée noire, tout à l'heure, disait Alexis Brézet du Figaro pour le président de la République hier. Oui, enfin, pas tant que ça. Il n'y a pas aucun appel à la démission. Je rappelle quand même qu'en 2017, François Bayrou, Richard Ferrand, qu'avait dit, que disait à l'époque Édouard Philippe, un ministre mis en examen, ça démissionne. Oui. Et François Bayrou, qui n'avait même pas été mis en examen, a dû quitter le gouvernement. Là, Éric Dupond-Moretti...
On est passé de la Startup Nation au gouvernement du conflit d'intérêts. Et je veux dire...
Carrément, vous y allez comme ça.
Le secrétaire général de l'Élysée, tout le monde explique...
Examen sur avec le statut de témoin assisté.
D'accord, mais enfin quand même. On a plus qu'un symbole, puisqu'il y a une mise en examen. On est bien d'accord. Et vous avez.
Oui, mais il y a constitution de partie civile, donc c'est automatique.
Parce que nous sommes en monarchie républicaine, même si l'Assemblée a rééquilibré le pouvoir. Le phénomène individuel, c'est le bras d'honneur permanent, pardon de le dire, du président de la République qui dit que nenni les mises en examen, j'en fais mon affaire. Et tous ces gens-là, tenez bon, on tient tout ça en respect. Sur Dupond-Moretti, j'en fais qu'une remarque, mais qui est tout à fait intéressante, c'est deux choses. Sa stratégie judiciaire dans ce dossier, où il a décidé, lui, ministre de la Justice, c'est son droit, de se taire face au magistrat. Il a le droit au silence, mais il le fait, d'une certaine manière. Et son entourage qui explique à quel point, lui-même, garant de l'indépendance de la justice, c'est chargé de presse qui explique à quel point il est l'objet d'une vengeance de la magistrature. Excusez-moi, ni politiquement, ni sur le plan de sa fonction, il ne peut tenir. Et pourtant, il tient.
Mais Eugénie.
Moi, j'avoue que je vais pas cracher sur Emmanuel Macron parce qu'il résiste aux juges et à Mediapart. Je trouve ça plutôt dans
l'époque juge,
dans une époque,
c'est
Mediapart qui a sorti l'affaire sur Kohler.
Alexis Brézet,
mais en même temps, il est en contradiction avec ses propres principes. Et encore une fois, c'est comme le néo-féminisme à la France insoumise, la moralisation de la vie publique est en marche. C'est un retour de boomerang, c'est-à-dire que c'est eux qui l'ont mis en place. C'est eux qui ont voulu faire les plus purs, les plus justes, le monde nouveau. Emmanuel Macron en 2017 disait on va éradiquer le conflit d'intérêts. Et surtout, il voulait l'éradiquer chez les parlementaires, parce qu'en fait, je pense que la philosophie d'Emmanuel Macron, c'est les parlementaires. Finalement, ils doivent être irréprochables parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et l'exécutif, qui est efficace et sur le terrain, ne doit pas être irréprochable. Et je pense qu'il y a une contradiction flagrante aujourd'hui. Et c'est ça lui revient en boomerang. Pour le moment, il tient. Mais effectivement, je pensais hier à M. Bayrou. Je me disais qu'il doit l'avoir en travers de la gorge.
L'affaire est compliquée parce que le principal accusateur d'Éric Dupond-Moretti, François Molins, part à la retraite le 30 juin prochain. Qui doit nommer le successeur de François Molins ? Éric Dupond-Moretti.
Nommer son accusateur.
Cette histoire, on n'a pas fini d'en parler.
Il ne se déportera pas une fois supplémentaire.
Merci François Calfon. Merci Eugénie Bastier. Tiens, mais qui revoilà. Bonjour Philippe Vandel.
I'm back. Salut Dimitri, bonjour.
Salut. Culture Média sur Europe 1 dans 5 minutes.
Eugénie Bastier qui monte ce livre chronique, livre extraordinaire. Que pensait la presse au moment où les chefs-d'œuvre sont sortis ?
Eh ben souvent on est surpris.
Voilà.
Des jugements hâtifs parfois.
Baudelaire se fait défoncer, Stendhal se fait défoncer, Zola est encensé par une partie de la critique et pas par l'autre. On va parler de tout ça avec le rédac chef de Retro News et on va parler aussi de la manière dont la critique voit les chefs-d'œuvre ou les laisse passer avec Jacques Bronstein. Ça sera notre info média du jour. Au sommaire également, on sait ce qui démarre samedi à 3h15 du matin.
Oui,
la Coupe du monde féminine de rugby. Et non pas la Coupe du monde de rugby féminin. Voilà, je précise juste.
C'est la coupe qui est féminine et pas le rugby.
Exactement. On sera avec François Triot, Laura Di Muzio, qui commente les matchs. Ça sera la doublette la plus en vue de TF1 parce que ça sera sur TF1. Et puis l'humoriste Christelle Chollet pour son nouveau one-man show, reconditionné. Quelle différence avec réparé? C'est la question que je vais lui poser.
Ben merci Philippe. Culture Média, c'est sur Europe 1. Ça démarre dans 3 minutes. Excellente journée. Nous nous retrouvons demain matin, 7h. Bye bye.